Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ici. Il est 7h du matin sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Merci d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Je suis accompagné d'Alice Meunier aujourd'hui. Bonjour Alice.
Bonjour Alexandre.
Et puis à sa gauche, c'est Maëlys Clauzel.
Bonjour à tous les auditeurs et bonjour Alexandre.
Derrière la vitre, Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour Alexandre.
Bon, et alors aujourd'hui, un programme qui est plutôt intéressant, je trouve. On va commencer à parler avec un maire RN, Aurélien Lopez Liguori, qui répondra aux attaques réalisées par la gauche, notamment par Manon Aubry à son encontre, et à l'encontre des maires RN en général. Maires RN qui sont évidemment scrutés par la gauche radicale, on le sait. Il expliquera aussi comment ça se passe dans sa nouvelle mairie, celle de la ville d'Agde. Et puis, à 7h25, nous parlerons de l'offensive pro-GPA du clan progressiste. Il y a désormais deux candidats qui défendent la GPA dans leur pré-programme pour 2027, Bernard Cazeneuve et Gabriel Attal. Et on parlera de ça avec Laurence Trochu et Anne Chaube. Anne Chaube qui est psychologue spécialiste de ces sujets. Et puis en débattons-en, nous parlerons de pédocriminalité avec le député UDR Alexandre Allégret-Pilot qui a sa proposition de loi à ce sujet. On recevra aussi Régis Le Sommier, 5 minutes, qui nous expliquera un petit peu la censure à laquelle il fait face. Et puis enfin, à 8h57, comme tous les jeudis, ce sera l'analyse de Jean Messia. Voilà un programme bien chargé qui commence avec un bulletin d'actualité avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, un vote qui passe mal et qui en dit long sur le décalage abyssal entre le peuple français et une partie de sa classe politique. Hier soir au Sénat, le projet de loi Riposte, un amendement de bon sens proposé par la droite, a été rejeté. Cet amendement visait à rendre automatique l'expulsion du territoire français pour tout étranger condamné pour rodéo urbain aggravé sous drogue ou alcool ou pour violation de domicile. Ces actes intolérables qui pourrissent la vie des quartiers, terrorisent les riverains et symbolisent l'insécurité croissante liée à une immigration incontrôlée. Le bloc central macroniste et la gauche ont voté contre. Ils ont préféré protéger les droits des délinquants étrangers plutôt que la sécurité et la tranquillité des Français chez eux. C'est le même refrain. Les conventions européennes, les recours possibles, l'individualisation des peines, toujours les mêmes excuses pour justifier l'impunité. Écoutez Jacques Serret, journaliste politique sur CNews.
Lorsqu'un étranger est condamné pour ce type de fait, il ne doit tout simplement plus rester sur le territoire français. Et on aurait pu imaginer que dans le contexte où le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, parle de choc d'autorité, on aurait pu imaginer que ce texte soit défendu par le gouvernement. Eh bien non, le texte a finalement été rejeté par le bloc central, rejeté par la gauche, tout simplement, puisqu'ils n'ont pas voté en sa faveur hier soir au Sénat. Bref, c'est une occasion manquée, encore une fois, de renforcer la fermeté face à des délits qui alimentent un très fort sentiment d'impunité dans le pays.
Et d'un autre côté, bonne nouvelle quand même sur le dossier migratoire au niveau de l'Union européenne.
Alors oui, ce mercredi, l'Union européenne devait approuver la création de hubs de retour en dehors de son territoire, un principe validé par la CJUE. Ces centres permettront d'accueillir et de renvoyer plus efficacement les migrants dont la demande d'asile a été rejetée. Inspirée du modèle italien de Giorgia Meloni en Albanie, cette mesure est poussée par plusieurs pays de droite et du centre-droit comme le Danemark, l'Autriche et l'Allemagne. L'objectif est clair, augmenter le taux d'expulsion aujourd'hui dramatiquement bas. François-Xavier Bellamy l'a bien résumé, ce n'est pas un texte de plus, mais la condition pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire en Europe. Évidemment, la gauche et les ONG comme Amnesty International hurlent à la violation du droit international, mais après des années d'immigration incontrôlée, d'insécurité et de submersion, ce genre de mesures concrètes est devenu indispensable.
Et une nouvelle alerte sur la sécurité des Français.
Oui, en effet, en 2025, la CNIL a enregistré 6167 violations de données, un record absolu, soit 50% de plus en 3 ans. Au premier trimestre 2026, on est déjà à plus de 2730 nouvelles fuites. Personne n'est épargné, reconnaît la présidente de la CNIL.
CNIL.
La CNIL. Et bien, les administrations santé, opérateurs télécom, hôtels, même l'ANTS, avec les données de 12 millions de Français piratées, les attaques se multiplient, souvent via les prestataires fragiles, et sont rendues plus dangereuses par l'intelligence artificielle. Face à cette explosion, la réponse de l'institution, eh bien, plus de contrôle, plus de sanctions. La CNIL a déjà infligé près de 487 millions d'euros d'amende l'an dernier. Mais pendant ce temps, les données personnelles des Français, dont beaucoup sont sensibles, continuent de fuiter massivement. Ce record pose une vraie question. À force d'accumuler des bases de données gigantesques sur les citoyens, tout en étant incapables de les protéger correctement, l'État et les grandes entreprises ne sont-ils pas en train de mettre en danger la vie privée et la sécurité de millions de Français? La CNIL appelle à la bonne hygiène numérique. Les Français, eux, attendent surtout des résultats concrets et une vraie protection.
Et puis, vous allez nous parler du périscolaire maintenant.
Eh bien oui, plusieurs centaines d'animateurs périscolaires ont manifesté ce mardi dans la capitale pour dénoncer un climat de suspicion généralisée. Depuis janvier, la mairie de Paris a suspendu 78 agents, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles. Face à la multiplication des affaires graves révélées ces derniers mois, le nouveau maire PS Emmanuel Grégoire a mis en place un plan tolérance zéro. Les syndicats crient à la répression et aux suspensions abusives. Pourtant, on parle bien de protéger des enfants confiés à des adultes dans le périscolaire. Des cas dramatiques ont été révélés, des animateurs mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs, parfois réembauchés après avoir été innocentés ou signalés. Derrière les pancartes « Stop répression », on voit surtout une filière très précarisée, largement vacataire, où le contrôle et la sélection des personnels ont manifestement été défaillants pendant des années, sous la gestion Hidalgo-Grégoire. Priorité absolue, la sécurité des enfants. Mieux vaut quelques suspensions abusives que de laisser un seul prédateur seul avec des petits. Le climat de suspicion n'est que le début logique d'années de laxisme et de manque de vigilance dans les services publics parisiens.
Et que se passe-t-il en sport ?
Eh bien, mauvaise nouvelle pour les fans de tennis. Carlos Alcaraz a déjà déclaré forfait pour Roland-Garros et sera également absent du tournoi de Wimbledon. Le numéro 1 mondial ne sera donc pas sur les courts cet été.
Et puis, pour ce qui est de la météo maintenant?
Eh bien, aujourd'hui, l'ensoleillement est généreux, avec un plein soleil sur la moitié sud du pays et quelques cumulus décoratifs au nord, le tout dans une grande douceur. Côté température, nous attendons pour les maximales de 18 à 32 degrés du nord au sud, avec notamment 18 à Cherbourg, 25 à Paris, 27 à Lyon et jusqu'à 32 à Biarritz. Et nous célébrons en ce 21 mai Saint-Constantin, Sainte-Gisèle et Saint-Venant.
Merci Alice.
Ligne droite.
Maïlys, décryptée.
Oui Alexandre, alors chers auditeurs, alors que Cannes a vu débarquer sur la croisette les plus grandes stars du petit écran de la planète, depuis plusieurs jours, une partie du cinéma français fait surtout parler d'elle en jouant les résistants face au grand méchant Bolloré. Pour rappel, si certains d'entre vous auraient manqué un épisode de la saga Absurdité gauchiste, 600 signataires ont trouvé tout à fait intelligent de rédiger une tribune alarmiste faisant retentir le bruit des bottes, suivi d'accusations de prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif à l'encontre de Vincent Bolloré. Rien que ça. Le problème, c'est qu'il y a un léger détail qui rend toute cette agitation assez ridicule. Cela fait plus de 10 ans que Canal+ appartient au groupe Bolloré. 10 ans et soudainement, en 2025, nos zéros du Festival de Cannes découvriraient qu'ils collaborent avec un système crypto-fasciste. Bon, c'est un peu tard pour nous faire croire au Père Noël, on n'est pas dans un feuilleton à l'eau de rose de fin d'année. Parce qu'il faut être un petit peu cohérent, si Canal+ est devenu l'organe culturel de la bête immonde, pourquoi avoir accepté pendant toutes ces années les préachats, les financements, les tapis rouges, les promotions et les montées des marches ? Pourquoi tant de films de réalisateurs très engagés à gauche ont-ils continué à être financés par Canal+ sous l'ère Bolloré ? La vérité est très claire, il n'existe aucun exemple concret de censure idéologique massive dans le cinéma chez Canal+, absolument aucun. En réalité, cette tribune ressemble surtout à une posture morale ou à une crise d'ado qui veut se faire remarquer jusqu'au moment où, pour une fois, il y a une conséquence. Et là, eh bien, c'est la panique générale. Car ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est la réaction du milieu. Dès que Maxime Saada rappelle qu'on ne peut pas cracher publiquement sur une entreprise tout en exigeant son argent, les grands résistants du 7e art, pouf, ils enfilent tous la cape d'invisibilité d'Harry Potter et disparaissent. D'un coup, les producteurs deviennent anonymes, les déclarations se floutent et les quelques courageux expliquent qu'ils ont signé par inquiétude, par anxiété, pour lancer un débat. Bref, beaucoup de révolutionnaires de canapé et très peu de véritables martyrs, on s'en doutait. Et surtout, cette affaire révèle quelque chose de bien plus profond. Le cinéma français n'est absolument pas un milieu artistique parmi tant d'autres. C'est probablement l'un des secteurs les plus subventionnés, protégés et institutionnellement verrouillés de France. CNC, commissions, festivals, audiovisuels publics, écoles de cinéma, presse culturelle. Pendant 50 ans, les mêmes sensibilités idéologiques progressistes ont occupé l'essentiel des positions du cinéma. Le paradoxe est donc flagrant, s'il n'est pas étonnant venant d'eux. Ceux qui parlent aujourd'hui d'hégémonie sont précisément ceux qui l'exercent depuis des décennies. Ils ont tellement longtemps défini seuls ce qui était moralement acceptable, artistiquement respectable et politiquement fréquentable qu'ils vivent désormais toute contradiction comme une agression. Le fond du problème n'est donc pas vraiment Bolloré. Le vrai problème pour une partie du milieu culturel, c'est qu'un acteur extérieur au consensus idéologique traditionnel puisse exister sans demander la permission à la dynastie gauchiste. Et cela explique l'hystérie actuelle. Pour la première fois depuis trop longtemps, certains découvrent qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à fabriquer l'imaginaire collectif français à travers le cinéma. Eh bien non, ils perdent de la vitesse. Et pendant ce temps-là, on l'espère, le cinéma de la France authentique, celui de Brigitte Bardot, Alain Delon, Louis de Funès ou Jean-Paul Belmondo, autrement dit celui d'une France qui s'aime profondément, d'une France enviée par le monde entier, cherche à se retrouver, et ça, c'est tout ce qu'on souhaite.
Merci Maïlys.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler bien des attaques de la gauche contre les mairies RN, et pour ça, qui de mieux pour en parler qu'un maire Rassemblement National, Aurélien Lopez-Ligori, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes anciennement député et désormais maire RN de la ville d'Agde. Alors, la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est d'abord que, eh bien, la gauche, depuis votre élection, depuis l'élection, les dernières municipales, se met comme en tête de réaliser une offensive contre les mairies RN. Je pense notamment à l'observatoire des mairies RN qui a été lancé. Voilà, émanation de l'observatoire de l'extrême droite. Et là d'ailleurs, la députée Manon Aubry a récemment dressé une sorte de grande liste dans laquelle, la députée Manon Aubry qui est LFI, je rappelle, une grande liste dans laquelle elle va expliquer tout ce qu'elle trouve abominable dans ce que réalisent les maires RN. Et là, elle met en cause la ville d'Agde, notamment sur la question de la réduction du festival du cinéma, la réduction des concerts gratuits sur la scène flottante. Autrement dit, vous vous en prendriez à la culture.
Manon Aubry s'intéresse à Agde, très bien. Je pense que c'est des attaques absurdes. Ils sont en train d'essayer de trouver des biais pour attaquer des mairies RN. Alors là, ils ont trouvé le monde de la culture, mais ils n'ont jamais géré une ville, ces gens. Ce qu'il faut savoir, alors moi, j'ai supprimé 2 jours sur six de festivals de cinéma, et j'ai supprimé une date sur 4 d'un concert de musique qui est sur plusieurs jours. Pourquoi? Parce que j'arrive dans une ville avec un budget qui est insincère, que je dois trouver 2 millions d'euros d'ici le 5 juillet, et que donc je dois faire des efforts partout. Mais j'en fais sur la culture, j'en fais sur les heures supplémentaires, j'en fais sur les RH. Je demande à mes services d'en faire. Et c'est quand vous voulez gérer une mairie en bon père de famille, il faut faire des arbitrages. Mais en même temps, on est en train de relancer une fête traditionnelle à Agde qui avait disparu autour des joutes, autour de nos traditions occitanes et agatoises qu'on va faire cet été, qui va durer pendant 3 jours et qui est une activité culturelle supplémentaire. Donc bon, ça c'est, je pense que Madame Aubry cherche juste à attaquer les maires RN, mais la vérité, c'est que l'entrée en fonction de ces maires s'est faite de manière impeccable, qu'il n'y a pas de polémique, tout se passe très bien, les habitants sont contents.
Alors, Aurélien Lopez-Ligori, mais il y a eu une polémique, on recevait d'ailleurs le maire en question à ce sujet, je pense par exemple à Hervé de Lépineau, qui a subi une polémique d'ampleur nationale sur la diffusion, qui encore une fois, je le rappelle, n'était pas de sa responsabilité, on l'a compris par l'enquête, mais de la musique Maréchal Nouvola dans les rues de sa ville pour le 8 mai.
L'extrême gauche ou que la presse crée des polémiques contre le RN, ça c'est une vérité absolue, mais ça sera toujours le cas. Par contre, que l'ERN les engendre, là, pour le coup, tout se passe très bien dans ces villes.
Ouais. Et alors, justement, question comme ça, c'est que vous faites partie de ces jeunes maires déjà et de ces nouveaux maires en réalité qui, justement, ont créé un petit peu la surprise durant ces dernières élections municipales. Est-ce que vous diriez que être un maire RN, dans le fond, c'est être un maire comme les autres, ou est-ce que vous sentez que vous avez un statut particulier, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, ou dans votre manière de gérer la ville?
Or, c'est sûr qu'on sera plus scruté que les autres, donc on n'est pas tout à fait normal, mais du moment où on est maire, moi j'étais député, avant d'être maire, j'étais le député de pas uniquement le député du RN. Député est une fonction, on représente des Français, maire c'est exactement la même chose, je représente ma ville. Après, je pense que c'est une patte. Moi, aujourd'hui, je rentre dans une mairie, j'ai 1200 employés, 127 millions de budget, c'est la première station balnéaire de France, la quatrième d'Europe, c'est le Cap d'Agde. Donc, il y a, je pense, une manière de gérer que moi je veux apaiser, que je veux très direct, carte sur table avec les citoyens. Moi, je communique de cette manière. Et c'est des choses qui sont faites de manière générale que par des maires. Et le côté bon père de famille aussi. Et quelque chose qui est très développé, je vois aussi par mes collègues, on n'est pas du tout concerté, et pourtant c'est de manière générale ce qu'on est tous en train de faire.
Alors, la dernière fois qu'un maire a été élu à Agde, il s'agissait de Gilles, alors je sais pas comment on prononce son nom de famille, Détor, oui c'est ça, Gilles Détor, qui est désormais condamné pour vraiment de nombreux scandales assez ubuesques, on va dire. Qu'est-ce que ça fait pour vous aujourd'hui, en réalité, on se doute que ça vous a sans doute un peu aidé à être élu, mais dans le fond, quelles ont été les conséquences finalement au sein de la ville, eh bien, des frasques de Gilles Détor?
Bon, après, il y a une enquête qui est encore en cours, mais c'est vrai que on récupère une ville qui est un peu traumatisée. Et l'un des premiers chantiers que j'ai à mettre en place, c'est regagner la confiance des Agathois, qui avaient perdu la confiance en leur mairie, très clairement, et qui avaient une administration qui fonctionnait. Mais pour autant qui était un peu je dirais pas à l'arrêt, mais enfin qui faisait les affaires courantes. Donc là on arrive derrière, c'est assez dur, parce qu'en fait bon, on voit le côté élection, je suis le maire d'Agde.
Vous devez peut-être expliquer un mot à nos auditeurs, justement, de quoi est accusé Gilles Détor, et un petit peu expliquer quel était son rapport avec les habitants, justement, lié à ça.
Alors, c'était un maire qui était très apprécié, extrêmement apprécié à Agde, et c'est surtout ça qui a traumatisé les gens. C'est que du jour où même il y a cette affaire qui arrive, après, il est pas jugé, il est toujours présumé innocent, moi j'y tiens. Mais donc c'est une affaire avec une voyante. C'est assez long, mais j'invite les auditeurs à taper affaire voyante Agde.
C'est effectivement, ce que j'allais dire, c'est que c'est une affaire à suspense. Donc effectivement, on invite les auditeurs à regarder. Mais donc effectivement, donc une confiance à rebâtir, et même sur. On sait que justement, on en discutait également avec Hervé de Lépineau il y a peu de temps, mais on sait que généralement, dans ce genre de cas, on retrouve aussi la ville avec une certaine dette, avec une situation économique compliquée. Vous parliez de trouver 2 millions d'euros d'ici début juillet. Expliquez-nous.
Bon, en gros, j'ai l'État qui me demande 1,3 million, enfin, j'ai des rentrées fiscales en moins de 1,3 million d'euros de l'État, qui n'étaient pas prévues dans le budget. J'ai une amende SRU, vous savez, c'est les HLM, j'ai pas assez d'HLM à Agde, donc j'ai 700 000 euros supplémentaires. J'ai eu des dégâts à cause des inondations, j'ai pas mal de choses qui se sont accumulées. J'ai aussi mon projet à mettre en place, puisqu'il me reste 8 mois. Comme beaucoup de municipalités, mais pendant les 3 mois de campagne électorale, ces municipalités, moi en tout cas la mienne, a cramé la caisse.
Ouais.
Donc, il faut que je tienne jusqu'au bout de l'année. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et j'ai un budget à construire. Mais aussi, quand on arrive dans une mairie, il y a je pense, un fait important. On pense qu'on arrive maire et on devient le patron de l'administration. Mmh. C'est pas exactement le cas. Quand vous arrivez, et qui plus est, moi, à Agde, avec ces traumatismes qu'il y a eu, vous devez gagner la confiance de l'administration, vous devez travailler avec elle, et le temps qu'elle vous suive et que les choses fonctionnent et qu'il y ait une certaine réactivité, ça prend quand même un certain temps. Et nous, c'est la relation qu'on est en train de construire en ce moment, et c'est, voilà, il y a, je pense, pour tout le monde, quand on rentre dans une mairie, il y a au moins 7-8 mois d'acclimatation et de prise en main des services.
Et alors, justement, maintenant que vous devez effectivement trouver cet argent, remettre tout cela en place, quels sont les leviers que vous allez utiliser ? Parce que, d'une certaine façon, c'est toujours la même question, le même objectif pour de nombreux maires du Rassemblement National, c'est à la fois éponger la dette, à la fois retrouver un budget sain, et puis ne pas augmenter les impôts locaux. Alors, comment vous réalisez cette équation ?
Le fonctionnement. Aujourd'hui, je suis en train de faire trois audits. Un audit sur les finances publiques, un audit sur ma commande publique et un audit sur le pilotage de ma masse salariale, comme pourrait le faire en fait un chef d'entreprise. Et le but, c'est de tirer le fonctionnement sans impacter le service rendu aux agatois, aux habitants. Mmh. Mais quand vous êtes dans une mairie avec 1200 employés, je peux vous dire que vous avez quand même des marges de manœuvre. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai un tiers de ma masse salariale qui part à la retraite dans les 4 prochaines années. Donc, ça permet aussi de chercher dans du fonctionnement. Mais il y a plein de choses. Moi, par exemple, j'arrive. On parlait de festival sur la de musique où j'ai supprimé une date. Il y avait des caisses de diplomatico qui étaient achetées par la municipalité sur le festival de cinéma, c'était des caisses de champagne avec des tapis rouges, des restaurants, des frais de restauration qui étaient démentiels. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi. Je suis arrivé dans une mairie. Enfin, on est en train de supprimer ces lignes budgétaires. Et moi, je suis arrivé dans une mairie. Depuis 2 mois, j'ai pas été au restaurant sur les frais du contribuable. Mmh. C'était pas le cas de mes prédécesseurs qui étaient pas tous les jours, mais voilà. Et c'est plein de choses à faire. C'est une gestion en bon père de famille, comme vous gérez votre budget ou comme vous gérez une entreprise.
Mais alors, le bon père de famille, il peut aussi avoir des projets justement pour sa famille. Alors vous, justement, à Agde, qui est une ville quand même particulièrement touristique, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous parliez de relancer une tradition locale. Qu'est-ce que vous cherchez à réaliser pour votre ville, qui est quand même une ville de 30 000 habitants, donc théoriquement qui est touristique et donc théoriquement qui doit avoir des projets ?
Alors, c'est une ville de 30 000 habitants, INSEE, vous avez raison, mais c'est une ville qui est considérée par l'État comme une ville de 120 000, 130 000 habitants. Puisque nous avons l'été 300 000 habitants, au maximum à Agde, entre 250 et 300 000 habitants. Et au jour le plus bas, la semaine la plus basse de l'année, c'est la troisième semaine de janvier, on a 54 000 habitants. Mmh. Ce qui fait qu'en moyenne, dans l'année, on est au-dessus des 100 000. Mmh. C'est une grosse machine. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, je pense qu'on a tous, quand on arrive, envie d'embellir sa ville. Moi, j'arrive dans une ville qui a beaucoup d'infrastructures, mais qui a des infrastructures vieillissantes. Et la campagne, on a accès aussi sur ça. Je ne fais pas des grands projets. J'en ai quelques-uns, comme la création d'un musée de la Grèce antique, puisque Agde est une ville qui a 2600 ans d'histoire. Elle a été créée par les Phocéens au même moment que Marseille.
Eh ben, je ligure.
C'est Marseille et Agde sont les deux plus vieilles villes de France. Donc, il y a toute une histoire à retrouver où on va travailler dessus. Mais voilà, Agde est la première station balnéaire de France. Elle fut l'une des plus grandes d'Europe, ce n'est plus le cas. J'ai envie de revenir à ça, que Agde redevienne un lieu de fête. Ça a été aussi le Ibiza français à une période. Mmh. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'attractivité touristique de la ville, sur la sécurité, sur les infrastructures du quotidien. Mais ça, c'est aussi un peu le quotidien de tous les maires de France.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélien Lopez-Ligori. Effectivement, voilà, on vous souhaite bon courage pour tous les chantiers qui s'annoncent devant vous. Et on vous dit à très bientôt, ici, sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est bientôt 7h25. Dans quelques instants, nous aurons, eh bien, on va passer très vite au grand entretien. Le grand entretien, ce sera sur la GPA avec Laurence Trochu, Anne Chaube, et à 7h50, la chronique d'Arthur de Vatrigan.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Depuis quelques jours, il arrive que, eh bien, une sorte d'offensive semble présente, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi de manière médiatique, de manière politique. Cette offensive, elle est en réalité menée par une sorte de centre-gauche. Ce centre-gauche est incarné aujourd'hui par deux personnalités, sur ce cas précis, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, si vous en rappelez, mais également Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron pour le coup, et secrétaire général du parti Renaissance. Et alors, justement, ces deux personnages ont un point en commun, c'est que dans leur pré-programme présidentiel, ils ont introduit une mesure particulièrement controversée, une mesure qui est d'autant plus controversée qu'elle arrive alors que nous sommes en pleine discussion sur une loi sociétale, celle sur la fin de vie. Ils proposent l'ouverture de la GPA pour les Français. Alors pour en parler, nous recevons tout d'abord Anne Chaube. Bonjour, vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous avez écrit « Un cri secret d'enfant, attachement mère-enfant, mémoire précoce, séparation, abandon » paru en octobre 2025 et qui, si je le comprends bien, parle également de ce sujet de la GPA. Nous recevons également pour cela Laurence Trochu. Laurence Trochu, vous êtes députée européenne Identité Liberté au groupe ECR. Vous avez écrit... publié récemment « Maman, j'ai vu Jésus le 9 avril 2026 » et vous êtes très en pointe aussi sur ces questions sociétales. C'est d'ailleurs à vous que je voudrais adresser la première. Justement, comment est-ce que vous voyez cette sorte d'offensive pro-GPA, on peut le dire, de Bernard Cazeneuve, mais surtout de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui déclarait d'ailleurs dans un entretien très récemment souhaiter même un enfant avec son compagnon Stéphane Séjourné. Il propose dans son pré-programme présidentiel, la GPA. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors déjà, une précision. Quand il dit qu'il souhaite un enfant avec son compagnon, il ne dit pas comment. Et c'est là que précisément, il reste évasif. Mais on ne peut pas entendre cette phrase sans la relier aux déclarations précédentes dans lesquelles, évidemment, il s'est prononcé en faveur de la GPA. Alors, je pense que de manière très pragmatique et même cynique, hein, il faut bien le dire, à l'approche d'une campagne présidentielle, chacun cherche son espace politique, chacun cherche à se démarquer de ses potentiels concurrents ou adversaires. Et Gabriel Attal veut occuper cet espace politique d'une gauche... très en pointe sur les sujets de société, d'une gauche qui finalement ne reconnaît plus aucune des limites, y compris des limites biologiques qui fondent et qui fondent une société. Donc il y a certainement cette volonté d'exister aussi par des mesures, pour lesquelles évidemment les réactions se font attendre.
Et alors justement, est-ce que, Anne Chaube, je tourne vers vous de votre côté, mais est-ce que vous, ça vous préoccupe justement le fait qu'on puisse voir cette forme de GPA dans un programme politique, et puis même, je vais aller un petit peu plus loin, mais on voit aussi une forme douce de promotion de la GPA, on va dire, notamment sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je pense en effet qu'on est là devant un sujet extrêmement préoccupant. Hein. Je travaille comme psychologue, en effet. Ça fait 25 ans que je vois des enfants, des familles, et que déjà dans des situations de naissance naturelle, je recueille des enfants qui peuvent être en souffrance à partir de situations traumatiques qui se seraient passées à la naissance, voire avant la naissance. Donc, c'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire qu'en fait, j'explore avec les parents toute la période de la vie prénatale pour repérer ce qui éventuellement s'est déjà passé durant ces 9 mois. 9 mois, c'est pas très court, hein, c'est long. 9 mois, c'est le temps d'imprimer avec une empreinte extrêmement profonde et durable de tout ce qui va se passer, tout ce qui va circuler, ce maillage intime relationnel qui va naître entre la mère et l'enfant. Et ça ne laisse pas un être humain indemne dans un sens, dans un autre. Et dans ce sens-là, ici, en fait, on a des connaissances quand même depuis déjà un grand nombre d'années, hein, sur toute cette vulnérabilité du petit dès le sein maternel. Et je dirais que l'apogée, je dirais que c'est cet arrachement, cette séparation de naissance. Quel est le psychologue qui osera dire qu'une séparation de naissance ne vient pas toucher d'une façon, quand même la plupart du temps, traumatique, le nouveau-né? Donc, et va le marquer durablement. Hein, l'histoire d'Olivia Morel en parle d'une façon extrêmement claire. Et donc, oui, c'est extrêmement préoccupant parce qu'on occulte une période de la vie de l'enfant. C'est un petit peu comme si on voulait exclure les racines d'un arbre. Mmh. Les racines d'un arbre, ça soutient l'arbre, c'est la force de l'arbre, les racines. Et la période prénatale, on ne la voit pas, mais elle soutient tout l'être, elle soutient la personne et elle va permettre à la personne, quand à travers vents et marées de la vie, je dirais, de se tenir debout dès lors que cette période a été, alors on est tous atteints de souffrances, hein, on a tous des souffrances, il ne s'agit pas d'exclure les souffrances dans la vie, mais quand même d'induire des vulnérabilités chez le tout petit dès la période prénatale, c'est quelque chose qui est assez sidérant aujourd'hui avec toutes les connaissances que nous avons sur le psychisme et les méandres de l'âme humaine qui sont très complexes, mais qui commencent non pas à la naissance, mais avant la naissance. Ouais.
Alors, on reviendra sur ce sujet dans un instant, notamment avec Olivia Morel qui nous avait dit qu'elle n'était pas disponible, mais finalement si, donc elle va nous rejoindre dans un instant, c'est un petit peu la bonne nouvelle qu'on a. Je me tourne vers vous à nouveau, Laurence Trochu. Je parlais de cette promotion un petit peu douce de la GPA qui se réalise sur les plateaux de télévision où on voit effectivement parfois des sortes d'animateurs qui vont aller demander à des personnes ayant utilisé la GPA justement comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça fait pour eux d'avoir un enfant, et justement qu'ils vont banaliser ça. D'un autre côté, même quand on tape GPA sur Internet, en fait, on voit directement, alors qu'on est en France, des sites qui en font la promotion, alors que c'est censé être un acte illégal. Comment ça se fait ?
Oui, ça c'est vraiment le grand scandale. Alors certains médias l'ont malgré tout dénoncé récemment, mais sur la base de ces scandales que j'ai pu moi-même constater, j'ai d'ailleurs fait un signalement sur la base de l'article 40 au procureur de la République pour demander la fermeture de certains de ces sites qui ont des adresses en .fr, qui très clairement annoncent des correspondants français permettant de répondre aux questions des principaux intéressés. Donc, il y a bien un business de la GPA qui se déroule en France. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi, par le passé, le salon Désir d'enfant qui se tenait même en plein cœur de Paris, dans le quartier des ministères. Donc, il y a de fait ce business qui se développe sans que les autorités compétentes ne réagissent. Donc, j'ai voulu, je suis toujours dans l'attente, hein, j'ai voulu. Il y a maintenant 2 mois, je crois que le délai est de 3 mois, donc nous attendons encore. J'ai voulu faire ce signalement pour obtenir la fermeture de ces sites, ou en tout cas de leur réseau français. Mais il faut savoir que moi qui siège en commission femmes et égalité des genres au Parlement européen, je suis très frappée de voir le silence de ces femmes qui sont soi-disant là pour défendre les intérêts de la femme. Madame a tout à l'heure expliqué ce qui se passe du côté de l'enfant et l'aberration presque scientifique que représente la GPA à mesure qu'on progresse sur les connaissances que nous avons de la psychologie d'un bébé avant même sa naissance. Eh bien, je suis très étonnée d'entendre, ou plutôt de ne pas entendre justement les femmes défendre la situation de vulnérabilité des femmes qui finalement tombent dans ce piège d'une GPA, qu'elle soit marchande ou éthique. De toute façon, le principe est le même.
D'ailleurs, le mot éthique qu'on pourrait tout à fait, qu'on utilise par défaut quelque part, mais qui serait largement à remettre en question. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On vient de recevoir avec grand plaisir eh bien, Olivia Morel, qui finalement a pu se joindre à nous. Je rappelle que vous êtes membre de la déclaration donc, de CASA, que vous êtes aussi l'autrice de « Où es-tu, maman ?» et que vous-même êtes née d'une GPA, Olivia Morel. Vous êtes très engagée à ce sujet. En réalité, justement, je reviens un petit peu sur ma question initiale, mais... Vous avez constaté, je pense, comme nous, une sorte de cette nouvelle offensive pro-GPA. C'était un sujet qui était un petit peu passé sous le tapis. On avait eu quelques victoires au niveau européen. Pourquoi ce retour, selon vous ?
Oh non, je pense pas qu'il y a un retour en arrière, pas du tout. Je pense que aujourd'hui on remet ça sur le tapis parce qu'il y a les élections présidentielles et que quelques personnalités publiques aiment se faire des clients. Hein, des clients, ils ont besoin de quelques votes et de grappiller quelques votes parce qu'ils sont désespérés. Et je vais citer Gabriel Attal parce que c'est de lui dont on parle aujourd'hui. Donc il remet ça sur le tapis parce que c'est parce que lui aussi veut faire une gestation pour autrui. Hein, il faut le dire, et il l'a dit très clairement. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait un retour en arrière. Au contraire, on voit que du progrès aujourd'hui de notre côté, en notre faveur, pour l'abolition de la gestation pour autrui, au niveau européen, mais aussi au niveau de l'ONU. Niveau de l'ONU, on a eu un excellent rapport de la rapporteure spéciale contre la violence faite aux femmes et aux filles, qui a dit que la GPA était une atrocité et devait être abolie. On voit au Chili qu'ils sont en train de passer une loi contre la GPA. En Équateur, c'est pareil. On a vu l'Italie. Donc, bref, en Slovaquie, ça a été banni dans la Constitution. Donc, voilà, au contraire, moi, je vois le vent tourner vraiment en notre faveur et je suis extrêmement positive. Et il ne faut pas penser que c'est parce que un Gabriel Attal a décidé de remettre ça sur la table pour les élections de 2027 que tout est perdu, bien au contraire.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la GPA a une si mauvaise presse que ça auprès des Français ? Parce que on sait qu'en réalité, souvent par ignorance de ce qu'est vraiment le sujet, parfois il y a une sorte d'acquiescement latent, on va dire, à ce niveau-là.
Je pense qu'il y a vraiment une offensive contre la GPA de la part des Français. J'en suis très très fière. Je vois la tollée que quand Gabriel Attal, pardon, hein, je vais reparler de lui, mais parce que c'est de lui dont on parle aujourd'hui, ou un Cazeneuve, je vois que la tollée qui se prennent sur les réseaux sociaux. Je parle aux personnes, là je suis en ce moment à Bordeaux et je suis en train de rencontrer des gens sur le terrain, je fais le tour du sud-ouest de la France et c'est magnifique, donc j'ai la chance de discuter avec les Français sur le terrain. Il y a vraiment une offensive contre la gestation pour autrui aujourd'hui, et ceux qui sont pour la GPA, en réalité c'est parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que c'est. Donc aujourd'hui, notre devoir c'est de faire des conférences, c'est de faire comprendre aux Français ce que c'est la vraie gestation pour autrui, contrairement à ce qu'ils montré dans nos médias aujourd'hui, qui est une propagande, hein, pro-GPA sur nos médias français, et je parle bien du service public aujourd'hui et d'autres médias, d'autres grands médias. Donc voilà, on doit vraiment les avertir de la réalité de la gestation pour autrui, leur montrer le vrai côté, et ensuite en fait ils ouvrent les yeux et ils comprennent très vite. Mais on a de la chance en France encore.
Je reviens vers vous, Anne Chaub. Il y a quand même plusieurs pays qui ont légalisé la GPA, ou en tout cas qui reconnaissent même la parentalité dans la GPA. D'une certaine façon, qu'est-ce qu'on observe chez les enfants qui, effectivement, sont nés de la GPA ? Olivia Morel, vous êtes une de ces personnes, mais peut-être à un niveau plus macro, quelque part. Anne Chaub, qu'est-ce qu'on observe ?
Alors déjà par rapport à la Belgique, donc la Belgique n'a pas encore légalisé, hein, donc la GPA est autorisée mais n'est pas légalisée, mais elle se pratique dans 4 cliniques ici en Belgique, donc en fait l'étranger vient en Belgique pour faire des GPA. Alors, les histoires commencent à sortir au niveau de la GPA. Hein. Alors, personnellement, moi, j'ai énormément de situations de PMA, donc des procréations médicalement assistées, pas encore officiellement, si je puis dire, des situations de GPA. Bon, je connais très bien Olivia et je connais bien son histoire. Je trouve qu'elle est largement suffisante et représentative, à mon avis, d'une série d'autres histoires qui n'osent pas encore sortir, parce qu'en effet, les jeunes sont ligotés quelque part par un conflit de loyauté, c'est-à-dire que c'est très très difficile de remettre en question les conditions de sa propre naissance. Et c'est presque d'abord pour un enfant, il y a des émissions, hein. Donc en fait, ce qu'on essaie aussi de faire croire au public, c'est que les enfants vont très bien. Il y a des émissions là qui passent et qui font part d'histoires à l'eau de rose. Alors il y a peut-être des très belles histoires, hein, je ne dément pas cela, mais quand même, les enfants sont à l'âge de l'adaptation, c'est-à-dire qu'en fait, un nouveau-né qui est séparé, qui est arraché de sa mère de naissance, il va naturellement recréer, à moins qu'il soit atteint d'une pathologie, je dirais presque psychiatrique dès le début de sa vie, il va se laisser mourir, mais ou tout simplement une dépression de nouveau-né, ça existe, Françoise Dolto le disait, hein, les enfants qu'on sépare de leur mère de naissance peuvent être atteints de dépression. Donc ces enfants finalement vont tout faire, il y a cet élan, cette pulsion de vie qui est là, et qui va, ces enfants vont recréer un nouvel attachement. Et le gros problème, c'est lorsqu'on filme des enfants, voire même des jeunes adolescents, ils ne peuvent pas remettre en question leur mode de naissance. C'est tout à fait impossible, parce que ce serait accuser leur pilier de vie. Oui. J'ai envie de dire, ce serait se retourner contre ceux qui sont leur sécurité, qui sont devenus leur nouvelle sécurité dans la vie. Donc, je trouve que c'est soi-disant, d'ailleurs, je ne peux absolument pas parler d'études, pour moi, il ne s'agit pas d'études. Ça épate la galerie, si je puis dire, c'est pour faire croire qu'en fait tout va bien, alors qu'en fait en dessous de cela, je ne serais pas étonnée de découvrir, et pourquoi dans des naissances naturelles, des situations que j'observe depuis 25 ans et qui ont touché le temps de la grossesse ou la naissance, tel que certainement la séparation de naissance, mais avant la naissance, il y a aussi tous les problèmes de filiation. Hein. On sait que combien des enfants qui sont nés sous X ou des enfants qui sont issus d'un déni de grossesse, on sait ce que cela produit. Mmh. Et il y a des très très grandes souffrances qui vont être observées à ce moment-là.
Donc, sans parler même de la souffrance pour la mère elle-même, qui, évidemment, on le sait, on l'imagine, ça doit être très difficile, effectivement, d'abandonner son enfant.
Alors, c'est un autre pan, c'est un pan extrêmement important, parce qu'on parle de psychologie. La psychologie, elle touche autant la femme, donc la mère porteuse, bien sûr, que les enfants. Mmh. Et pour la mère porteuse, en fait, on lui enjoint... Elle est devant cette injonction de ne pas s'attacher, ce qui est non seulement une aberration, mais j'ai presque envie de dire, et je me permets, Olivia, d'utiliser un terme que vous utilisez, c'est-à-dire d'une monstruosité. Je ne me permettrai pas, mais vous l'utilisez, et vous êtes légitime pour le faire, étant donné que, en effet, cette séparation enjoindre une femme qui va, dès la grossesse, elle va être inondée d'hormones d'attachement. Mmh. Et on lui demande de ne pas s'attacher. Mmh. Donc c'est une injonction tout à fait contre nature et qui va atteindre évidemment profondément le fœtus, étant donné que lui, c'est un capteur de relations. Mmh. Nous ne devenons pas des êtres de relations à la naissance. Hein, c'est Catherine Dolto qui le dit, et elle dit à la naissance, si ma mère est bien là, ben je suis bien moi. Ce qui veut dire qu'en fait l'enfant, il a sa conscience de... comment dire, d'être vivant à partir de ce lien avec sa mère. Donc, on ne peut pas... Vous parliez de GPA éthique. Éthique, c'est un oxymore. C'est comme dire une douce violence. Mmh. On peut, quel que soit le type de GPA, qu'elle soit consentante, qu'elle soit rémunérée, non rémunérée, qu'elle soit chouchoutée, j'ai envie de dire, quelles que soient les conditions d'une GPA, on ne pourra jamais on ne pourra jamais dire que c'est
la rendre éthique. Mais justement, je viens vers vous, Laurence Trochu, un petit peu aussi avec cette question, c'est qu'il y a un argument qui vient très très régulièrement quand même pour défendre la GPA, c'est le même qu'on utilise d'ailleurs pour la loi sur la fin de vie, c'est qu'en réalité, ça n'enlève aucun droit à personne, et finalement, cet argument-là, on l'entend depuis 25 ans, à chaque nouvelle loi sociétale. Qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Alors, je crois que Anne Schaub vient de faire la réponse la plus argumentée qui soit, puisque de fait, elle vient de nous montrer tout ce que cela enlevait à l'enfant lui-même et à la femme également. Et encore une fois, à mesure que nous connaissons les méandres de la psychologie et de l'enfant et de la mère, nous comprenons à quel point il y a une contradiction scientifique dans le processus de GPA de part et d'autre. Mais voyez, ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui l'offensive elle est lancée essentiellement sur la GPA éthique, parce que je pense que beaucoup de reportages ont eu lieu qui ont montré la réalité de la GPA marchande dans ce qu'on peut appeler les usines à bébés dans différents pays, où très clairement il est difficile quand même de soutenir que la femme fait ça de manière consentie, sans pression, que c'est un choix complètement altruiste, parce que bien évidemment, et pour le coup c'est même Jean-Luc Mélenchon qui le dit, montrez-moi une situation où une femme n'aurait pas un besoin financier pour proposer ses services de mère porteuse.
Et Jean-Luc Mélenchon qui avait cette phrase qui est sans doute la meilleure que j'ai jamais entendue sur la GPA, qui est « Je serai pour la GPA le jour où une femme pauvre, une femme riche, pardon, louera son ventre à une femme pauvre. »
Exactement. Mais l'offensive, elle est sur la GPA dite éthique. Alors, l'expression est affreuse, parce que elle n'est d'ailleurs pas vraie. Parce que autour d'une conception par GPA, il y a un tas de prestataires de services. Il y a des services juridiques, il y a des services médicaux, paramédicaux, et tous ces intermédiaires-là, évidemment, sont rémunérés. Ils ne travaillent pas gratuitement. Donc, il y a malgré tout, même si la femme elle-même n'est pas directement rémunérée, des prestataires qui, eux, font partie de ce cercle de business. Et puis, il faut aussi dire que même lorsque la femme n'est pas censée être rémunérée, elle touche des compensations pour les frais qu'elle doit voilà, et ces compensations, ces défraiements sont parfois gonflés précisément pour cacher une rémunération. Donc l'offensive, nous devons la mener là, et c'est ce que je fais au Parlement européen pour dénoncer en fait cette GPA soi-disant éthique. Alors c'est vrai que j'ai pu obtenir, suite au rapport, à la publication du rapport de la rapportrice spéciale de l'ONU dont Olivia Morel à parler, que se tienne au Parlement européen un débat sur la question de la gestation pour autrui, débat que la gauche a tenté de fuir, mais qui s'est malgré tout tenu et qui nous a permis à nous, députés des conservateurs et réformistes européens, de prendre justement, on va dire, le leadership sur cette question. Et puis chaque session, nous organisons des événements pour faire connaître la réalité de la GPA. Et puis nous avons une pétition également que nous avons lancée pour justement obtenir l'abolition universelle de la GPA, interdiction-gpa.fr, parce qu'il faut absolument travailler d'une part à cette prise de conscience et d'autre part à obtenir cette abolition avant que nos adversaires n'obtiennent la légalisation de la GPA. Pour ne pas être en réaction, mais pour prendre vraiment les devants.
Alors, vous ouvrez aussi ça sur un problème un petit peu plus global, et une question que je vais vous poser à vous, Olivia Morel, c'est que, en fait, déjà, la GPA, c'est un problème quelque part mondial, dans le sens où, évidemment, à partir du moment où certains pays légalisent la GPA, certains parents pourront trouver un moyen, eh bien, d'acheter des enfants dans ces pays-là. D'une certaine façon, un argument qui est largement utilisé pour défendre la GPA, Olivia Morel, c'est l'idée que, que faire des enfants nés de la GPA, et justement utiliser le fait que c'est un phénomène qui existe pour finalement le légaliser. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est en ce moment. Alors, je voudrais juste revenir très vite fait, parce que j'ai reçu un message d'une enfant née par gestation pour autrui. Moi, je me suis constitué un petit groupe d'enfants nés par GPA sur WhatsApp, et j'ai reçu un message hier, et je voulais juste vous en faire part, parce que tout à l'heure, on a parlé de GPA éthique, on a parlé d'enfants, on a parlé de ce que ça fait à l'enfant, mais dans n'importe quel GPA, c'est l'enfant qui subit les conséquences, la femme aussi, mais l'enfant également, parce qu'il est arraché à sa mère. Et j'ai reçu un message d'une enfant née par gestation pour autrui qui m'a dit « Comment allez-vous tous ? Le fait qu'une amie de longue date me déclenche vraiment des blessures d'abandon m'a beaucoup remuée aujourd'hui. Donc évidemment, j'ai pensé à vous tous. C'est vraiment difficile pour moi de savoir quand je dois faire attention à garder dans ma vie les personnes qui réveillent ces sentiments, quand je dois plutôt travailler sur mes propres blessures ou s'il existe un juste milieu entre les deux. Est-ce que d'autres d'entre vous se reconnaissent là-dedans ?» Donc ça montre vraiment que même... Et cette fille, elle a 38 ans. Donc cette blessure de l'abandon, elle est à chaque fois dans n'importe quel GPA, éthique ou non éthique. Voilà, je voulais juste faire ce point-là. Ce message m'a vraiment troublée hier. J'ai eu du mal à y répondre, je vous avoue. Et ça m'a fait énormément de peine. Sur le fait qu'aujourd'hui, on dit que ça existe, donc on doit le légaliser, c'est un...
Pour les enfants.
Pardon ?
Pour les enfants, c'est ce qui est toujours dit.
Mais... C'est pour les enfants, non, parce que regardez, l'Italie a passé une magnifique loi. Aujourd'hui, un Italien ne peut pas aller à l'étranger et revenir avec un enfant. Et ensuite, ça c'est fait parce qu'on doit ils ont fait cette loi pour prévenir évidemment que les Italiens ne puissent pas faire une GPA et se disent ah mince, je vais peut-être pas aller à l'étranger faire un enfant pour revenir avec et peut-être potentiellement me prendre 1 million d'euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Oui. Donc je pense qu'il faut agir comme ça. Et puis en fait après traiter au cas par cas, et j'en ai parlé avec la ministre de la Justice belge d'abord, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui dis que quand on a des enfants qui reviennent comme ça, il faut traiter vraiment au cas par cas et faire passer absolument les parents commanditaires par le processus de l'adoption. Parce qu'en fait, la GPA contourne l'adoption. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'acheter un enfant. On fait pas de, il y a pas de garde-fou pour protéger les enfants. Il y a pas si longtemps que ça, le premier couple homosexuel qui a eu recours à la GPA en Angleterre, aujourd'hui sont traduits devant la justice pour des faits de viol et de trafic d'êtres humains. Donc c'est bien montré qu'il faut protéger les enfants de la GPA et le seul moyen de le faire aujourd'hui, c'est de l'interdire, c'est-à-dire d'interdire les Français d'aller à l'étranger et de revenir avec un enfant, de l'interdire évidemment universellement, mais aussi que si on voit des enfants revenir dans notre pays, il faut que les parents soient vraiment mis à travers le processus de l'adoption et que ça soit fait en bonne et due forme.
Olivier Morel, Laurence Trochu, Anne Chaube, vous restez avec nous. Simplement, juste avant, il y aura la chronique d'Arthur de Vatrigan qui va venir pendant quelques minutes. On vous retrouvera juste après jusqu'à 8h15. Je rappelle également à nos auditeurs vous pouvez écouter toutes ces radios courtoisies en podcast. Arthur de Vatrigan, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Je répète ma question, Arthur de Vatrigan, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Je suis bien avec vous et je suis très heureux d'être avec vous, cher Alexandre.
Bon, alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
On va parler de cinéma, puisque c'est le Festival de Cannes. Mais côté coulisses et surtout côté compta. Le cinéma est un art, parfois, un divertissement souvent. Rarement les deux, mais en tout cas, c'est une industrie tout le temps. Parce que jusqu'à présent, la révolution IA pourra peut-être changer beaucoup de choses, mais à la différence d'un livre, d'une peinture ou même d'une musique, un film nécessite plusieurs corps de métier. Un metteur en scène, un scénariste, parfois sont les deux, des comédiens, un chef opérateur, un monteur. Ça, c'est la version réduite. Si on rajoute une version plus complexe, vous avez... des décorateurs, un cadreur, des costumiers, des effets spéciaux, la musique, bref, l'enveloppe gonfle. Et je ne parle pas des salles, puisqu'a priori, le principe, c'est quand même de diffuser des films dans les salles. Ça demande donc un certain budget. Et depuis quelques temps, la question financière revient sur le devant de la scène, ce qui est intéressant, et notamment le fameux CNC, le Centre National du Cinéma et d'Images Animées, qui a été créé, je rappelle, en 1946, et qui est placé sous l'autorité du ministère de la Culture. Et ce CNC, je rappelle, avait été créé justement pour protéger cette industrie, l'industrie française, des offensives étrangères, essentiellement hollywoodiennes. Et ce qu'on peut résumer par cette fameuse exception culturelle française, autrement dit préférence nationale, bref, la France s'est organisée et sa protection et sa continuité. Et donc là, depuis quelques temps, et surtout ces 2 dernières semaines, on a entendu beaucoup de choses à ce sujet, et pas toujours très justes. Donc, je voulais rappeler un peu le fonctionnement, parce que c'est intéressant d'avoir tous les éléments,
ouais,
pour ensuite faire un état des lieux, et puis voir ce qu'il y a à faire, comme pour le service public. Est-ce qu'on le supprime, est-ce qu'on le réforme? Ça sera un autre débat. Donc, le cinéma français n'est pas financé comme une industrie ordinaire. Ça ne repose pas uniquement sur le verdict du guichet, donc de ce qu'il vend. Ça repose sur un système mixte, associant financement privé, obligation d'investissement des diffuseurs avec du préachat, compte de soutien, aide sélective du CNC et aide régionale. Alors le box-office compte évidemment, ça rapporte, mais ce n'est pas le seul juge. Et heureusement, parce que si le marché devient le maître étalon, on dirait que l'audace finit vite aux oubliettes. Pour vous donner une idée, en 2024, la production française mobilisait 1,44 milliard d'euros d'investissement. Mais ce n'est pas de la subvention directe. C'est-à-dire que l'État ne donne pas directement, les régions donnent, mais à peine. Donc il n'y a pas une réserve de budget qui est dédiée, qui est allouée chaque année, qui est votée. Ce sont des taxes et des obligations. Autrement dit, c'est une générosité qui est contrainte. Pour bien comprendre, il faut qu'on se concentre sur la pompe principale, qui est donc le CNC, qui est en fait un État dans l'État. Il collecte lui-même ses taxes, et puis il les redistribue selon ses propres règles. Et des taxes, il y en a plein. Alors, la plus connue, la principale, c'est ce qu'on appelle la TSA, c'est la taxe spéciale additionnelle sur les billets de cinéma. C'est en fait, on ponctionne 10,72% du prix de chaque billet d'entrée vendu en France. En clair, un billet de cinéma que vous achetez sert pas seulement à voir un film, il contribue aussi à faire exister d'autres films. C'était l'une des grandes inventions de la politique culturelle française, c'est-à-dire que faire circuler la valeur d'une œuvre vers la possibilité d'œuvres futures. Et le problème réside dans le futur, c'est que ça fait quand même quelque temps que le futur déchante. Et d'autant qu'en réalité, la locomotive principale qui embarque derrière elle toute l'industrie s'appelle Hollywood. Mais lorsque les scénaristes se mettent en grève, comme en 2023, le flux de blockbusters qui alimente les recettes, et donc par effet de cascade les caisses du CNC, ça starise à grande vitesse. C'est pourquoi on s'est retrouvé avec un gros trou budgétaire en 2023. On dépend quand même de l'extérieur. Ensuite, vous avez trois autres taxes sectorielles, une sur les éditeurs télé, une autre sur les distributeurs télé, une dernière sur les vidéos à la demande et les plateformes de streaming.
Mmh.
Et c'est ce cumul offre chaque année un budget assez confortable. C'est plus de 700 millions d'euros, dont au moins 200 est exclusivement réservé au cinéma français. Et c'est pas tout. Vous avez également les chaînes de télévision, ainsi que les plateformes SVOD, les vidéos à la demande, par abonnement, comme Netflix, comme Amazon, comme Disney, qui sont contraints légalement d'investir dans la production française. Toujours en 2024, l'enveloppe se chiffrait à 400 millions d'euros. Et c'est dans cette enveloppe que se situe Canal+, qui fait tant parler depuis quelques jours. Alors cette enveloppe, elle correspond pour l'essentiel à deux mécanismes directs, qui sont souvent confondus, le préachat et l'obligation d'investissement. Le préachat, c'est l'achat par une chaîne des droits de diffusion d'un film, mmh, avant même sa sortie en salle et parfois même avant le début d'un tournage. Alors, l'obligation d'investissement contraint les chaînes hertziennes, qui sont en clair, Canal+, M6, France TV, à consacrer au minimum 3% du chiffre d'affaires à la production d'œuvres françaises et européennes. Et Canal+, qui est une chaîne payante, mais une chaîne payante de cinéma, a une obligation plus élevée parce que ça doit être 12,5% de ton chiffre d'affaires, dont au moins 85% de ces 12% doivent prendre la forme de préachat. C'est-à-dire que la chaîne cryptée est légalement tenu d'acheter des films avant qu'ils soient tournés.
Mmh.
Et depuis 2021, donc les plateformes SVOD, Netflix, Amazon, Disney, sont soumises à des règles analogues. Et ce qui rend le système efficace, c'est qu'il s'articule autour d'un troisième mécanisme, qui est la chronologie des médias. En fait, c'est fixé par un accord professionnel sous l'égide du CNC et de l'ARCOM, comme par hasard, l'ARCOM est toujours là au bon moment.
Mmh.
Mais en fait, elle définit l'ordre et les délais dans lesquels les films peuvent être exploités sur chaque support après sa sortie en salle, et chaque fenêtre est négociée en amont. Donc, en gros, Canal+, c'est la première chaîne à pouvoir diffuser un film après sa sortie en salle. Aujourd'hui, c'est 6 mois. Et donc, comme ils sont les premiers, ils payent plus cher.
Ouais.
Alors, à ces ressources, il faut ajouter les dépenses fiscales via un crédit d'impôt qui s'appelle un crédit d'impôt dit cinéma, et qui permet donc aux producteurs de déduire leur impôt sur les sociétés jusqu'à 30% des dépenses de production réalisées en France. Et vous avez les SOFICA, qui sont des sociétés d'investissement, et qui permettent pour le coup aux particuliers, à vous, à nous, de défiscaliser une partie de ses revenus en finançant des films. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en moins de 10 ans, ces dépenses fiscales ont presque doublé. On est à 140 millions d'euros en 2024. Et enfin, là, c'est les collectivités territoriales, les régions, entrent dans la danse, parce qu'autant gratouiller sur toutes les stades possibles. Alors, on le sait peu, mais une grande partie des films français qu'on voit en salle, bah, en fait, ont été cofinancés par les conseils régionaux. Depuis 1989, les régions disposent de leur propre fonds d'aide à la production cinématographique qui est abondé en contrepartie par le CNC. Ouais. Donc, si vous voulez, en 2024, c'est entre 30 et 40 millions d'euros qui ont été injectés aux seules aides à la production de films. Et chaque région a son propre fonds de soutien qui alimente son propre budget. Et elle sélectionne elle-même les projets, donc long-métrage, court-métrage, documentaire, film d'animation, et verse les aides directement aux producteurs. Et le CNC s'engage de son côté et a abondé selon un ratio convenu qui est de, pour 2 euros de la région investi, le CNC investit 1 euro.
D'accord.
Mais le mécanisme commence un peu à grincer parce qu'en 2024, le CNC, qui est pourtant généreusement doté comme on l'a vu, bah, elle a discrètement baissé sa contribution, alors que les régions, elles, continuaient d'augmenter. Donc ça commence un peu à gueuler et à râler. Et donc, avec toutes ces taxes collectées, bah, le CNC redistribue, il y a des multiples commissions, commissions d'avance sur recettes, commissions sur le scénario, comme fonds d'image à la diversité, où c'est là, généralement, on voit les trucs bien conservateurs et réacs comme il faut. Et je vous épargne le détail sur le compte de soutien automatique, où le principe est assez simple. C'est dès qu'un film est agréé par le CNC et qu'il sort en salle, bah, chaque billet vendu crédite automatiquement le compte de société de production du film auprès du CNC, et c'est proportionnel aux retraites et aux recettes, pardon, et indépendant de toute rentabilité.
En quelques mots pour conclure, Arthur.
Déjà, bah, c'est sympa.
Bah ouais, bah, désolé, voilà, vous êtes arrivé au bout des 10 minutes.
J'étais là depuis une demi-heure, mon cher ami.
Bravo.
Et oui. Alors, si on fait un état des lieux, on va pas prendre l'année 2026 parce que ça court encore. Depuis la crise sanitaire ou la fermeture des salles obscures, bah, les Français se sont rendus compte que le cinéma leur manquait pas trop et donc ils sont pas vachement revenus. Deux chiffres, 2019, vous avez 213 millions de spectateurs. En 2025, 156 millions de spectateurs. Et la part des films français, c'est 40% en moyenne. Mmh. Avec une hausse en 2024, mais portée par trois films, Le Comte de Monte Cristo, L'Amour Ouf, et un petit truc en plus qui font 25 millions de téléspectateurs juste à E3. Donc la fréquentation chute, mais miracle des recettes, le nombre de films français augmente. Mmh. 2019, on était à 230, en 2025, on était à 290, en 2024, on était à 309. Ouais. Donc c'est comme l'UE, ça marche pas, mais on en fait plus. Alors, loin de moi l'idée d'épouser l'affirmation douteuse de Sébastien Chenu qui disait qu'il n'y a pas si longtemps qu'on juge la qualité d'un film à son nombre d'entrées, parce qu'avec son maître étalon, bah, la règle du jeu, c'est un navet, les tuches, c'est un chef-d'œuvre. Mais on peut quand même s'étonner que cette croissance déconnectée de toute réalité statistique, bah, surtout pour produire tant d'œuvres qu'on voit à peine, qu'on cite déjà plus, et dont on peine à croire qu'elles auront compté un jour.
Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Je rappelle aussi à nos auditeurs que si Radio Courtoisie tient, ce n'est pas grâce au CNC, ce n'est pas grâce à la région, ce n'est pas grâce à tout ça, c'est uniquement grâce à vous.
C'est grâce à vous effectivement et à vos soutiens financiers. Je vous invite à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse soutenir.rc.fr. Et je vous demande également d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci Arnaud.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Et pour ce face-à-face, nous restons donc avec Arthur de Vatrigan, mais nous retrouvons aussi Anne Chaube, Laurence Trochu et Olivia Morel. Nous parlions donc de la GPA. Il y a un point qui est assez intéressant dans ce que vous disiez avant la longue chronique d'Arthur de Vatrigan, Olivia Morel, c'est justement qu'il y a une idée de contourner l'adoption. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant avec la GPA, même qu'on peut retrouver d'autres manières.
pourquoi est-ce que il y a une telle crainte de l'adoption en France? Comment vous l'expliquez justement? Peut-être Anne Chaube pour répondre à ça directement. Comment ça se fait que justement l'adoption soit si peu plébiscitée?
Pardon, vous posez la question à Olivia ou...
Non, plus à vous, Anne Chaube.
Écoutez, en effet, je pense qu'en Belgique, il y a de tels mouvements qui apparaissent aussi. Et en fait, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment lié, Olivia pourra peut-être compléter, mais il se fait qu'il y a eu pas mal d'histoires qui sont montées à la lumière, des histoires d'adoption d'il y a une vingtaine, trentaine d'années et qui ont été, en fait, qui faisaient l'objet de trafic d'enfants. Alors, est-ce que c'est l'occasion, justement, d'empêcher, je crois qu'il y a dans les régions anversoises ou dans le pays flamand, où on va diminuer ou même empêcher certains centres de procéder à des adoptions. Alors, est-ce que c'est pour justement augmenter et faciliter les GPA? Je suis bien en mal de vous répondre, étant donné que ça reste malgré tout une solution également pour des couples qui sont véritablement infertiles, et c'est une réponse au désir d'enfant, mais qui respecte, je dirais que l'adoption, c'est un accident de vie, ce sont des aléas de vie qui font qu'une mère se voit obligée de confier son enfant à l'adoption, voire quelquefois c'est dans un mouvement d'abandon très clair. Et on sait que cela laisse des blessures. Mais je dirais qu'à l'adolescence, un enfant qui va, à un moment donné, parce que c'est le réveil des mémoires, hein, l'adolescence aussi, c'est toute la connexion avec son identité qui peut émerger à ce moment-là, l'enfant ne va pas pouvoir en vouloir. Il ne va pas en vouloir à ses parents par rapport à son propre moment d'abandon. C'est-à-dire qu'au contraire, les parents ont cherché à compenser, à réparer une blessure de naissance, alors qu'en fait, dans la GPA, elle est programmée, oui. elle est induite. Et donc, ça reste bien sûr une réponse qu'il faut absolument favoriser et qu'il faut, je dirais, peut-être faciliter pour empêcher cette grande facilité, en effet, de la GPA qui contourne, alors qu'en fait, les adoptions, c'est quand même très compliqué. Hein, c'est pas simple. Ceux qui font un parcours d'adoption, c'est extrêmement compliqué. Et... alors que la GPA, ça s'obtient presque d'un claquement de doigts. Il y a très peu... On dit qu'il y a des comités d'éthique... de psychologie, mais c'est pas possible que ce soit sérieux, parce que on voit des situations, je connais des situations complètement hallucinantes où des GPA ont passé, alors qu'en fait, sur le plan psychologique, bah, ce serait pas spécialement indiqué. Oui. Voilà.
Olivier Morel.
Non, je pense que oui, en tout cas, le problème aujourd'hui, c'est que l'adoption est devenue tellement compliquée, tellement longue, tellement fastidieuse, tellement intrusive. Alors oui, c'est pour protéger les enfants et c'est tant mieux, mais c'est devenu tellement compliqué qu'aujourd'hui, les gens se tournent vers la GPA pour... par facilité.
Oui, c'est presque plus... En fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est plus simple de réaliser un acte illégal et coûteux qu'est la GPA, oui, plutôt que de réaliser un parcours d'adoption.
Absolument, c'est beaucoup plus facile de partir à l'étranger, au Mexique, se procurer une mère porteuse, et même peut-être se la procurer à distance depuis la France, envoyer ses gamètes au Mexique, et puis s'obtenir un enfant, aller le chercher quand il est prêt. C'est bien plus simple, et ça prend moins de temps, et bon, oui, ça coûte un petit billet, mais ça coûtera toujours moins cher que de passer 10 ans sur les bancs à attendre un enfant.
Et là,
ce qui est hallucinant, c'est que dans les... Justement, on commence on voit aujourd'hui toutes ces situations d'adoption qui ont été parfaitement illégales et qui ont fait partie d'un trafic d'enfants, mais comment peut-on qualifier autrement que la GPA qu'étant un trafic d'enfants? Et donc, est-ce que quoi, faut-il attendre encore 50 ans pour que ça vienne au jour et qu'on réalise ce que ça a représenté? Et justement, si c'est plus facile, parce que ça se paye très cher, ce qui met en évidence tous les intermédiaires qui sont... qui en tire profit, probablement bien plus qu'une adoption.
Et justement, c'est un point sur lequel je voulais vous interpeller, Laurence Trochu, vous me faites une transition parfaite, Anne Chaube, merci. C'est que finalement, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi au niveau européen. Il y a un marché de la GPA, il y a un vrai business, hein, c'est le terme, où en réalité, pour le coup, évidemment, on achète des enfants. Je ne sais plus laquelle d'entre vous évoquait également, même dans le cadre d'une GPA pseudo-éthique, cette idée sur laquelle, effectivement, il y a aussi des services juridiques, il y a aussi plein d'intermédiaires qui font partie de ce petit écosystème. Mais finalement, on se retrouve avec aussi des intérêts financiers derrière.
Oui, c'est un business, en fait. C'est un business qui prospère sur la vulnérabilité des femmes. Ça, c'est certain. Encore une fois, elles le font parce qu'elles ont un intérêt financier à le faire. Vous voyez, c'est aussi un état d'esprit. Le mot désir revient très fréquemment dans le langage de ceux qui promeuvent la GPA, le désir d'enfant, le salon désir d'enfant qui était, voilà. Et il faut vraiment comprendre que l'état d'esprit de la GPA, c'est se procurer un enfant. Là où l'adoption, à l'inverse, c'est donner des parents à un enfant qui n'en a pas. Oui. Et donc cet état d'esprit, évidemment, n'est absolument pas le même. On a très clairement vu toutes les tentatives pour contourner, on va dire, les garde-fous. Il y a en France la retranscription à l'état civil des enfants nés de GPA à l'étranger. Donc très clairement, ça facilite justement, et voire même ça encourage, parce que les passeurs de commandes savent que quand ils reviendront, eh bien, l'état civil français leur facilitera les choses. Il y a le certificat européen de parentalité qui est dans cette même logique. Donc, évidemment que les choses sont faites pour que la GPA soit contournée. Et c'est là la grande hypocrisie. Et ça appelle, évidemment, de notre côté, une énorme mobilisation. Parce que vous voyez bien que, finalement, le ver est dans le fruit. Oui. Et ça, il faut le dire, il faut l'expliquer pour que, justement, les Français puissent élever la voix et notamment à l'approche des élections, en faire aussi un critère de choix des candidats.
Oui. D'ailleurs, j'en profite comme ça aussi pour inviter nos auditeurs, s'ils ont envie de faire le test, à taper GPA Europe sur Internet. Ils verront tout de suite toutes sortes d'offres qui viendront. Et alors, c'est une monstre, enfin, justement, c'est assez abominable de voir ça aussi de manière aussi étalée. Laurence Trochu, simplement, ça représente combien, tous ces intérêts financiers? Est-ce que c'est, on parle de quelques personnes par-ci par-là, ou alors est-ce qu'on parle vraiment de milliards d'euros?
Non, je pense que il y a des projections qui ont été faites dans le rapport de l'ONU, justement, de Madame Rimam Salem. Elle fait des projections pour voir ce que donnera le développement du business de la GPA. Ça se compte évidemment en centaines de millions d'euros d'ici 2030. Milliards d'euros, exactement.
200 milliards d'euros en 2033.
Exactement. Et donc, il y a bien sûr des intérêts qui font que le combat est difficile à mener aussi, dès lors qu'il y a des intérêts financiers derrière, et encore une fois, des intérêts qui prospèrent et qui se développent, qui sont l'exploitation d'une misère. Et pour moi, le mot qui caractérise le mieux la GPA, c'est l'esclavage. C'est un esclavage moderne. Et là encore, c'est assez intéressant de voir comment se répartissent les forces politiques concernant la question de la GPA. En fait, tous ceux qui se rangent dans la catégorie, en tout cas à l'échelle européenne, des libéraux, considèrent que finalement, c'est un marché comme un autre, et ils articulent leur justification autour de la notion de consentement qu'on trouve de plus en plus, hein, la définition du viol par consentement, la GPA par consentement. Bientôt, on aura peut-être l'inceste à partir du moment où l'enfant est consentant. Donc, il se joue quelque chose autour de la notion de consentement. Et dès lors que la femme est consentante, eh bien, allons-y. Et finalement, il n'y a pas d'autres considération pour regarder la GPA.
Il nous reste deux minutes. Je voudrais poser une dernière question peut-être à Olivia Morel. En réalité, tout ce qu'on vient d'exposer, c'est pas quelque chose non plus qu'on vient de réinventer. C'est quelque chose qui se sait, les conséquences justement de la GPA sur tout le monde. On a l'impression que finalement, les parents qui réalisent une GPA, on peut pas imaginer qu'ils soient inconscients. Donc, est-ce que c'est des sortes de monstres d'égoïsme selon vous? Enfin, comment vous expliquez justement que, en sachant, en ayant au moins une idée de tout ça, dès que la GPA soit quand même réalisée?
Je pense que en fait, le marché de la gestation pour autrui, donc ce monstre de 200 milliards de dollars en 2033, il en fait utilise le désir et le désespoir des parents d'intention comme des proies en fait. Moi, je pointe pas du doigt les personnes qui sont en désir et en mal d'enfant parce que je peux comprendre mes propres parents qui, fut un temps, ont voulu un enfant et ont eu ce désir incroyable d'avoir un enfant et m'ont eu. Mais voilà, c'est, je le dis toujours, moi, je ne lutte pas contre des gens, je lutte contre des gouvernements, je lutte contre un système, je lutte contre un marché. Mais je pense pas qu'il faut pointer du doigt des parents commanditaires et les traiter d'absolument de narcissique à tout prix. Ça serait mal vu de notre part. Par contre, j'en veux, par exemple, encore une fois, hein, je reparle de Gabriel Attal, mais quand je vois qu'il veut légiférer pour la gestation pour autrui, pour ses propres intérêts, et là, oui, c'est un propre intérêt narcissique et plus les intérêts de la société,
oui.
Je suis un petit peu énervée.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous toutes les trois, Laurence Trochu, Anne Chaube, Olivia Morel, d'avoir justement intervenu à ce sujet et d'avoir rappelé voilà, toutes ces choses cruciales. Et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 8h14, merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, nous allons recevoir Alexandre Allégret-Pilot, juste avant lui, Alice Cordier. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'actualité avec Alice Meunier.
Alors hier soir au Sénat, un amendement de bon sens proposé par la droite a été rejeté. Cet amendement visait à rendre automatique l'expulsion du territoire français pour tout étranger condamné pour rodéo urbain aggravé sous drogue ou alcool ou pour violation de domicile. Et l'Union européenne devrait approuver la création de hubs de retour en dehors de son territoire, un principe validé par la CJUE. Ces centres permettront d'accueillir et de renvoyer plus facilement les migrants dont la demande d'asile a été rejetée. Et plusieurs centaines d'animateurs périscolaires ont manifesté ce mardi dans la capitale pour dénoncer un climat de suspicion généralisé face à la multiplication des affaires graves révélées ces derniers mois. Le nouveau maire PS Emmanuel Grégoire a mis en place un plan tolérance zéro. Les syndicats crient à la répression et aux suspensions abusives. Pourtant, on parle bien de protéger des enfants confiés à des adultes dans le cadre périscolaire. Et nous célébrons en ce 21 mai Saint-Constantin, Sainte-Gisèle et Saint-Venant.
Merci Alice.
Ligne droite.
Et on passe d'une Alice à l'autre. Bonjour Alice Cordier.
Bonjour
vous
Alexandre,
allez bien?
Très bien, je vous remercie.
Et ça fait plaisir de vous revoir ici en studio un petit peu. Alors, j'ai vaguement entendu le fait que vous auriez fait un tout petit peu de bruit l'autre jour à Londres, mais très vaguement. Hein.
À Londres. D'ailleurs, Mélisse était présente hein, lors ouais. de la manifestation organisée par Tommy Robinson, Unite the Kingdom. Vous verrez mon accent français, franglais,
oui.
particulièrement...
croustillant.
Croustillant, voilà, qui a fait parler également. Et en fait, il faut savoir que nous, on était invités à intervenir simplement lors de cette manifestation pour présenter l'association. Mais la veille de cette manifestation, on a découvert la ville de Luton, la ville d'où est originaire le militant Tommy Robinson, qui était donc à l'origine aussi également de la manifestation. Et on a été stupéfaite, honnêtement stupéfaite. Je n'ai jamais vu ça, mais il faut bien imaginer que c'est peut-être la France dans 10 ans. Mmh. Des appels à la prière en pleine ville. La ville de Luton, il faut savoir, en quelques années, est passée d'une mosquée à une quarantaine de mosquées et de salles de prière uniquement dans cette ville, qui n'est pas une très grande ville. Hein. Factuellement, nous, on l'a visitée, c'est vraiment pas immense. Des femmes en burqa intégrale dans les rues, et des femmes de tout âge, des petites filles également. On a été extrêmement choqués. Il faut savoir qu'en Angleterre, il n'y a pas la notion de laïcité, et ouais. à ce niveau-là, la burqa est légale, les appels à la prière également en pleine rue. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est légal qu'on veut ce modèle de civilisation et de vie, en fait, tout simplement, dans notre pays également. Alors, on a décidé, avec l'accord de Tommy, d'acheter local, d'ailleurs. Ça n'a pas été bien compliqué de trouver trois burkas.
Made in Britain.
Tout à fait. Made in UK. Avant, c'était Burberry, maintenant c'est...
Oui.
et à ce titre, on a proposé à Tommy de faire un mini happening, en fait, sur scène, en enlevant justement la burka, en signe de soutien, évidemment, aux femmes qui sont forcées de le porter, mais c'est également en signe de soutien identitaire, hein, d'expliquer que nous, on ne veut pas de ça.
Déjà, pardon, mais comment ils ont réagi ville et ce 200 000 Anglais qui étaient dans les rues en voyant trois femmes en burqa débarquer un meeting de Tommy Robinson pour prendre la parole.
Je sais qu'il y a eu un petit moment de flottement au début où les gens ne comprenaient pas très bien, puis ils voyaient que Tommy ne s'était pas opposé à notre présence sur scène. Alors ils ont au début hué un petit peu notre burqa, et puis par la suite quand on l'a enlevé, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Et voilà. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que en fait la manifestation de Tommy était très attendue. Et du coup, énormément de médias la suivaient, et donc l'extrait a été repris au point qu'on a reçu des demandes d'interview de médias indiens, de médias chinois, de médias russes. La séquence a réellement fait le tour du monde, bon peut-être pas non plus, mais enfin a fait énormément de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Bruit qui a eu une répercussion également en France, où l'extrême gauche donc s'en est pris violemment à nous de la même manière. Alors que je rappelle que des scènes de femmes qui enlèvent leur burqa, c'est des choses que la gauche est censée défendre. Je rappelle que Mélenchon considérait cet amas de tissus comme étant une atteinte à l'émancipation des femmes, une servilité. Et bizarrement, quand Mélenchon 2026 est là, il n'y a plus de souci à ce que des femmes décident d'enlever il y a un souci à ce que des femmes décident d'enlever leur burqa. Néanmoins, voilà, nous on sait qu'on est dans le bon, on est dans le juste. On a reçu des messages de femmes du monde entier qui nous remerciaient de ce symbole-là. Et puis de toute façon, nous, ce n'est sûrement pas la gauche ni Radio Nova d'ailleurs qui nous empêchera de dire que non, nous ne voulons pas de burqa en France ni en Europe.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Alice Cordier. Bah écoutez, bon courage. Je pense que effectivement, dans le fond, ce qui vous reproche sans doute, c'est plus d'être de droite qu'autre chose. Mais ça, est-ce que vous avez l'habitude ? Peut-être un peu à force, voilà, ça a pu venir finalement. Merci d'avoir été avec nous Alice, et on vous retrouve la semaine prochaine ici sur Ligne Droite.
Merci Alexandre.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Allégret-Pilot. Vous êtes déjà venu cette semaine, Alexandre Allégret-Pilot ?
Bonjour, c'est ça, mais en physique.
Exactement, en physique et sur un autre sujet. Alors, vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux l'autre jour sur un sujet qui est effectivement cette question du périscolaire, mais en général on voit que depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année en fait, il y a une thématique qui revient très fortement, que ce soit sur la question de l'aide sociale à l'enfance, du périscolaire parisien ou l'affaire Epstein même. On voit que la question de l'enfance est revenue un petit peu au centre des débats, la question de la protection de l'enfance, et vous souhaitez donc déposer une proposition de loi pour lutter contre la pédocriminalité, expliquez-nous.
Absolument, alors elle revient un petit peu dans la tête de l'information, mais c'est extrêmement léger au regard en fait de l'ampleur des affaires concernées. Il faut se le rappeler quand même. Les affaires de pédocriminalité, d'attouchement et de violence sur mineurs, c'est des affaires qui, en réalité, s'égrènent au fil du temps, depuis des années, et sur lesquelles on a, paradoxalement, assez peu de réactions et une omerta qui est très très forte, à l'inverse d'autres affaires. Si vous regardez typiquement, on n'entend pas aujourd'hui tous ceux qui manifestaient, à juste titre, dans le cadre de l'affaire Pellicot. Vous ne les entendez plus aujourd'hui sur un sujet qui est d'une ampleur, qui concerne, qu'on peut qualifier, à mon avis, de scandale de la décennie, en réalité, sur la mairie de Paris, pour ce qui concerne la mairie de Paris. Donc, il y a une omerta là-dessus, parce que ça ne correspond certainement pas à l'agenda de certains militants. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour mieux protéger nos enfants.
Alors, pourquoi vous parlez de scandale de la décennie pour le périscolaire parisien ? C'est-à-dire que, selon Emmanuel Grégoire, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des recrutements qui se sont faits un peu en pagaille, il y a eu des erreurs parfaitement regrettables, dans le fond, maintenant, tout va s'arranger.
Bah, écoutez, 84 établissements concernés par la procureure de Paris, une vingtaine d'écoles primaires, une dizaine de crèches, rien qu'hier 16 interpellations dont une ATSEM qui actuellement est en garde à vue, un système qui a été décrit comme un système d'omerta où on déplace les agents et où on n'informe pas les familles concernées et qui donc en fait perpétue le problème. Je pense qu'on est sur un sujet de système et pas sur un petit réglage à la marge.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire par sujet de système ? Vous pensez que, par exemple, Emmanuel Grégoire a une responsabilité, justement, dans cette situation ?
Eh bien, la procureure de la République et les juges le diront, certainement. Sauf si l'affaire est étouffée. Ce que je constate, c'est qu'en 1977, les intellectuels de gauche signaient une tribune pro-pédophilie dans Libération. En 2026, on a une mairie de gauche qui, vraisemblablement, a couvert des activités de violence sur enfants et de pédophilie sur enfants pendant des années.
Oui, d'une certaine manière, même on pense à la personnalité de Jack Lang qui a été plusieurs fois mise en cause à ce niveau-là, notamment évidemment dans le cadre de l'affaire Epstein. Vous pensez qu'il y a une sorte de lien entre justement une certaine intelligentsia de gauche et puis la pédophilie ?
Je ne sais pas, en tout cas je constate qu'il y a une tendance qu'on retrouve fréquemment et que là où on devrait avoir un travail justement pour montrer patte blanche, pour être irréprochable, on ne les entend pas ou au contraire on voit qu'il y a une tentative d'étouffement des affaires. On ne les a pas entendus non plus sur l'affaire Cotino, qui est une affaire dramatique encore une fois. Les mêmes qu'on entendait sur l'affaire Pellico qui manifestait, etc., on ne les a pas entendus sur l'affaire Cotino parce que peut-être ce n'est pas la bonne victime ou ce n'est pas le bon coupable. Là, on ne les entend pas sur les affaires de pédophilie qui sont énorme à l'échelle parisienne, mais pas qu'à l'échelle parisienne. On a eu un individu à Lille qui a été interpellé aussi récemment. Encore une fois, parce que les victimes, à mon avis, ne sont pas les bonnes victimes pour elles, et les coupables ne sont pas les bons coupables.
Alors moi, je vais vous retourner un petit peu l'accusation. Alexandre Allégret-Pillot, on a quand même très peu entendu le RN et l'UDR sur l'affaire Betaram.
Absolument, parce que je pense qu'on avait une volonté ici de mettre, de tirer un sujet en épingle qui datait énormément, plutôt que de régler des problèmes de façon systématique. Et là, justement, moi j'arrive avec une proposition de loi pour régler les problèmes de façon systématique.
Alors expliquez-nous votre proposition de loi, Alexandre Allégret-Pillot.
Alors, on va pas rentrer énormément dans le détail, mais on a plusieurs éléments. C'est que on a, comme l'a dit certainement Emmanuel Grégoire, c'est qu'on a des failles dans la vérification des antécédents des vacataires, parce que souvent ce sont des vacataires qui interviennent dans en titre d'animateur. Et qu'on a en France 3000 recrutements de vacataires par an, et que contrairement à ce qui est fait du côté de l'État, où on a une vérification automatisée du côté de l'État, eh bien, dans le périscolaire, il n'y a pas de vérification automatisée et c'est à la charge de la commune, du directeur d'établissement. Donc, si vous voulez, en général, ce n'est pas fait. Et on a une pression aussi sur les délais de recrutement, donc en général, ce n'est pas fait. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, on a une faille sur la mémoire institutionnelle dans le cadre des signalements. Et ça, c'est le sujet d'Omerta dont on parlait. C'est-à-dire qu'on va déplacer l'agent dans un autre établissement et il n'y aura pas, entre guillemets, d'historique, de suivi d'historique de la raison pour laquelle on aura déplacé cet agent. La troisième faille, c'est celle de l'information des familles. Les familles parisiennes n'étaient pas informées de la raison pour laquelle on avait déplacé l'agent concerné. Donc, ils ne se doutaient pas que potentiellement, leur enfant avait subi des attouchements. La quatrième faille, c'est l'absence d'une liste nationale d'exclusion à titre conservatoire. Parce qu'actuellement, vous avez une liste nationale dans le cadre des sanctions, qui sont des décisions de justice, mais vous n'avez pas de liste nationale pour les mesures conservatoires. Ce qui fait qu'un individu qui est mis de côté de façon conservatoire, tout en préservant sa...
Oui, mais on pourrait dire qu'il y a présomption d'innocence.
Exactement. Donc vous préservez sa présomption d'innocence. Mais ça, c'est le principe. Comme même si vous avez un harcèlement au travail, vous devez présumer, vous devez mettre de côté, à titre conservatoire, la personne présumée coupable, même si elle ne l'est pas. C'est présomption d'innocence. On peut trouver ça insupportable. C'est la solution du droit français. Eh bien, là, quand vous mettez quelqu'un de côté, rien ne l'empêche d'aller avoir la même activité dans un autre établissement parce qu'il n'aura pas été condamné. Très bien, présomption d'innocence. Pour autant, la mise à pied conservatoire, elle doit fonctionner partout.
Oui, et puis ça veut dire d'une certaine façon que tant qu'une personne n'a pas eu son jugement, qui a été réalisé jusqu'au bout, théoriquement, elle peut aller d'établissement en établissement.
Exactement, c'est à la limite. Et surtout, au-delà de ça, c'est que, autre faille, en général, ça ne va pas jusque-là. C'est-à-dire qu'en général, on va déplacer l'agent. Il n'y aura pas de suite judiciaire parce qu'on ne va pas le signaler au procureur de la République. On va dire, OK, là, ça pose problème, on ne veut pas savoir, on déplace l'agent. Donc, on ne va sur aucun des deux fronts, si vous voulez. On ne va pas sur un front de mise à pied conservatoire réel et on ne va pas non plus sur un front, disons, judiciaire. À partir de là, ça peut durer 10, 15 ans, ce genre de situation. Vous voyez ? Donc, tout cela, on a de quoi régler le problème. Darmanin lui-même disait qu'il était étonné qu'à la mairie de Paris, il n'y ait pas de vérification automatique des casiers judiciaires. Donc on a des manquements qui sont quand même gravissimes. Que le garde des Sceaux se dise étonné en 2026, pour le coup, moi, ça m'étonne. Le Sénat a adopté une proposition de loi le 5 novembre dernier qui, lui, vise les plateformes, puisqu'on a un individu, il y a quelques jours, qui, lui, a été mis en cause dans le cadre des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes ne vérifient pas l'honorabilité, et donc le casier judiciaire indirectement, des personnes concernées. Ce qui fait qu'on a quelqu'un qui avait été condamné à 5 ans de prison et une interdiction d'exercer en 2020, qui a été recruté à Lille en 2023, donc déjà vous voyez sur les délais, les délais on est toujours sur du bon, qui a été recruté à Lille en 2023 et qui a gardé 18 mineurs, malgré l'interdiction d'exercer, parce que la plateforme en question n'a pas d'obligation de vérification de l'honorabilité.
Oui, c'est ça, parce que déjà, il me semble que, si je ne m'abuse, j'étais en train de revérifier ça, mais déjà à la mairie de Paris, en fait, c'est géré par les CASP, donc des circonscriptions des affaires sociales de la petite enfance, et en réalité, le directeur d'établissement qui recrute le vacataire doit passer par la CASP, mais n'a pas lui-même accès au dossier, contrairement à la CASP, c'est bien ça?
Exactement.
Oui.
Donc là, on a un enjeu d'automatisation des vérifications de l'honorabilité des personnes recrutées.
Et surtout que techniquement, c'est pas très compliqué à faire.
Non, c'est pas hyper compliqué. Ça rajoute un petit délai. Bon, ouais. Voilà, ça rajoute un petit délai. Actuellement, l'obligation, elle est limitée à l'aide sociale à l'enfance et au travail sur les enfants de moins de 3 ans. Là, l'idée de ma proposition de loi, c'est d'élargir tout ça à tous les intervenants auprès de mineurs. Alors oui, ça rajoute une petite lourdeur. Mais ça me semble nécessaire.
Tous les intervenants auprès de mineurs, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est
colonie de vacances,
très large, oui.
Crèche,
ouais.
Vous voyez, sport.
Mmh.
Dès lors que vous avez des scandales régulièrement dans le cadre du sport.
Oui, bien sûr.
Bon, eh bien, en fait, le problème, vous pouvez le traiter de façon globale, de façon assez simple. Autre élément, c'est qu'on a souvent un enjeu temporel, dans la mesure où on a quelqu'un qui est condamné à un instant T, mais la vérification a eu lieu à l'instant T-1. Donc, il continue à exercer sans qu'on l'ait vu parce que bah oui, la vérification est tombée au moment.
Moi, par exemple, quelqu'un qui se ferait condamner après avoir été réembauché ailleurs, ça peut être ça.
Ça pourrait être l'exemple. Ouais. Vous voyez, moi, ce que je prévois, c'est une vérification régulière tous les 12 mois. Une obligation de vérification tous les 12 mois et surtout une co-responsabilité en cas d'absence de cette vérification. C'est-à-dire que la plateforme ou l'employeur qui doit vérifier, qui ne le fait pas et qui... en fait, a embauché ou a maintenu en emploi quelqu'un qui ne devait pas l'être dans ce secteur-là, eh bien, est également condamné.
Et c'est parce que, alors ça, vous touchez à un autre point qui est quand même intéressant, c'est que, notamment dans cette affaire du périscolaire parisien, mais aussi dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance notamment, personne n'est jamais responsable. Et ça, c'est quelque chose de très français aussi en général, mais dans le fond, on sait, enfin, évidemment, on condamne l'animateur qui a réalisé l'acte criminel, mais quand il s'agit de savoir qui l'a embauché, en fait, comme ça se perd dans l'administration, comme ça se perd dans toutes les strates, personne n'a jamais à rendre de compte.
C'est ça. C'est la beauté de tout ce qui est co-construction, co-responsabilité, etc. Au bout d'un moment, vous avez 25 acteurs, et ce qui fait que vous n'avez plus de responsabilité claire. Vous n'avez plus qui décide, puisque tout le monde décide. Donc, il faut, un, remettre une chaîne décisionnelle claire, un petit peu plus verticale, et puis, deux, quand ce n'est pas le cas, mettre des co-responsabilités, puisque tout le monde devient responsable dans ce cas-là. Tout le monde prend.
Ouais. Voilà.
Comme ça, on peut pas se cacher en disant « Oh non, mais moi, c'est pas moi qui l'ai fait. » Et puis, on était deux à décider.
Vous voyez je vous propose, Alexandre Agripilo, hier, on recevait l'avocat Michel Hamas, qui est spécialiste de l'aide sociale à l'enfance, à cette antenne, qui nous parlait également de ce sujet du périscolaire parisien. Je vous propose de mettre votre casque. On va écouter une minute pour l'entendre parler.
Alors en fait, on pensait que c'était bien géré tous collectivement. On dit, bon, l'école, c'est bien, quoi. Effectivement, l'école, c'est plutôt pas mal. On ne s'est pas rendu compte que des administrations ont pris le pas et que l'administration, par définition, c'est un mécanisme qui n'est pas violent, qui ne marche pas super bien. On est face à un truc qui a échoué un peu de partout et on n'ose pas dire, parce qu'ils n'ont pas osé dire. C'est tout simple. Hein. 20 000 prostituées, on n'ose pas le dire. Les garçons qui attouchent les enfants dans les cours d'école, le surveillant, on le sait tous depuis longtemps.
Il y a quand même cette idée, dans ce qu'explique Michel Hamas, qu'en réalité, c'est quelque chose... là, c'est un thème qui est revenu ces derniers mois sur la scène médiatique nationale, mais un sujet qui date d'il y a quand même plusieurs années, voire plusieurs décennies, et qu'on a toujours mis sous le tapis. Comment on s'attaque à cette question justement de l'omerta?
Alors là, on est sur le scandale, Maître parlait du scandale de l'aide sociale à l'enfance.
Oui, en partie, oui. Ouais.
Hein, sur le scandale de la prostitution qu'on retrouve, des affaires de prostitution qu'on retrouve et qui semblent systémiques, entre guillemets, dans ce milieu. Encore une fois, moi, ce qui m'étonne, Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on a des collectifs militants extrêmement puissants en France, qui sont capables de bousculer l'agenda médiatique sur plusieurs mois, et qui, dès lors que ça touche aux enfants, sont muets. Totalement muets. Ça ne les intéresse absolument pas. Alors que ce sont des collectifs qui prétendent défendre les victimes, je cite. Mais apparemment, pas les victimes les plus fragiles de notre société, que sont les enfants. L'enfant a été peut-être un totem, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. L'enfant est mis sous le tapis, entre guillemets, dans notre société.
Et alors justement, partons peut-être un petit peu, si vous en avez fini avec votre proposition de loi, mais...
Alors juste, oui. J'ai lancé une pétition justement pour pouvoir mettre cette proposition de loi en haut de la pile à l'Assemblée nationale, n'hésitez pas à la signer, elle se trouve sur mon site internet.
Voilà, bah écoutez, on invite les auditeurs à le faire si jamais ils souhaitent soutenir ce projet. Autre point aussi, c'est évidemment donc cette question de l'aide sociale à l'enfance, parce que ce que disait aussi Michel Hamas, c'est que c'est quelque chose de global, c'est pas seulement le périscolaire parisien. En réalité, c'est un problème qui touche tant à l'éducation nationale en général, qu'a aussi cette question donc, de l'aide sociale à l'enfance sur laquelle je voudrais vous emmener. Donc l'aide sociale à l'enfance, Maître Hamas l'expliquait, c'est quand même 20 000 enfants qui sont prostitués, c'est des cas de violence permanente, de viol, de trafic de drogue, c'est des conditions qui sont absolument déplorables, et en plus, ce sont des adultes souvent qui rentrent de manière défaillante donc dans la société. Comment on fait pour s'attaquer à ce problème-là? Comment on fait pour avoir une nouvelle politique de l'enfance qui touche aussi ces enfants de l'ASE?
Ça va être extrêmement dur pour plusieurs raisons. Premièrement, on a des personnes, alors fort heureusement ça reste une minorité, mais il suffit d'une minorité pour tout planter. On a des personnes qui aujourd'hui travaillent dans les sociétés de la France qui y sont parce qu'elles sont aussi attirées par des profils mineurs. C'est un faux. Vous voyez Pierre Lacotino, bon, typiquement, il faisait de la garde d'enfants, il était famille d'accueil, je crois, typiquement. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est, on va pas se mentir, les profils d'enfants qu'on retrouve à l'aide sociale à l'enfance, ce sont déjà des enfants qui ont été extrêmement exposés à des milieux extrêmement problématiques, qui ont rencontré des difficultés d'ordre physique, d'ordre psychiatrique, d'ordre social, qui sont terribles. Et donc, vous arrivez, vous avez, si vous voulez, la recette parfaite pour avoir une explosion totale avec, de la pédophilie, du viol, de la prostitution, de la drogue. Parce que le milieu social d'origine est déjà extrêmement dégradé. Donc c'est vraiment très très difficile, à mon avis, de redresser la barre. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il faut mettre énormément de moyens et scruter ça avec énormément de rigueur, parce qu'on part avec des profils qu'on agglomère par ailleurs, qui sont extrêmement fragiles. Vous avez une fragilité de ces enfants qui est gigantesque.
Vous, à l'UDR, vous voulez massivement couper dans les dépenses publiques en général. Ça, ce serait une des causes, quelque part, sur laquelle vous accepteriez de mettre plus de moyens?
Alors, mon collègue Olivier Fessa a travaillé sur ce sujet. Et typiquement, il pense que, j'en ai discuté un peu avec lui, il y a un besoin de recentrer un peu la dépense. On a demandé aux représentants de l'aide sociale à l'enfance, la décomposition des bénéficiaires de cette aide sociale à l'enfance en fonction de leur statut, notamment en fonction de leur nationalité. Vous voyez, pour savoir si l'argent va aux petits Français ou va pas du tout aux petits Français et qu'en fait, on a un déversoir typiquement dans notre pays. Eh bien, on n'a pas pu avoir la donnée.
D'accord.
Ça, c'est intéressant, non? Impossible d'avoir la donnée.
Donc ça veut dire que parmi les enfants qui actuellement sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, potentiellement pourrait y en avoir une partie qui ne serait même pas des enfants français.
La question peut-être se pose de la capacité. On nous explique qu'on a un système qui est extrêmement fragile et qui en plus explose en termes de volume. Si vous avez des finances publiques extrêmement dégradées, vous regardez ce qu'il en est de ce volume pour pouvoir mettre plus de ressources par enfant. Si vous constatez que ce volume est totalement sclérosé, vous essayez d'agir pour régler ça, quoi. Et pour cela, vous demandez les données que vous n'avez pas.
Et alors, il y a un point quand même, c'est que, laissons un point d'interrogation en tout cas sur ces données, mais en attendant, vous avez parlé beaucoup de la question des vacataires. D'une certaine façon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un presque un effet McKinsey, j'ai envie de dire, dans cette affaire du périscolaire parisien, mais même en général de l'ASE, dans le sens où on a moins d'agents de l'État qui sont pas suffisamment payés, et donc on se retrouve à recruter des vacataires qui sont pour beaucoup évidemment plus problématiques, moins formés. Je crois qu'il suffit de passer le BAFA pour effectivement être animateur dans le périscolaire parisien, enfin c'est le ticket d'entrée est extrêmement facile, et en réalité il y a quand même, ça montre quelque chose aussi d'assez français, dans le sens où quand on démantèle trop aussi certaines structures étatiques, bah, on en arrive justement avec des services particulièrement dégradés.
Oui, absolument. Ça pose la question de la place de l'État
ouais.
Dans tout ça. Alors à l'UDR, on a un ADN assez libéral, et on veut réduire l'implication de l'État hormis la dimension régalienne, et hormis les sujets sensibles. Là, je pense qu'on est dans un sujet sensible. Par ailleurs, si on a une loi qui cadre bien les choses, vous pouvez avoir des vacataires dans la mesure où ils sont bien encadrés. Pas besoin d'avoir le statut de fonctionnaire pour être bien encadré. Parfois, bien au contraire. Vous savez, chez les fonctionnaires, le harcèlement, c'est quand même un sport national. Hein.
Ouais.
Donc, il y a des lignes de crête qui existent sans avoir nécessité d'avoir le statut d'agent public, à mon avis.
Et alors là, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de on va dire, la pédophilie par la pédocriminalité par le bas. Il y a aussi une pédocriminalité par le haut qui existe en France. On a entendu parler notamment avec l'affaire Epstein. Vous en pensez quoi du fait que, justement, par exemple, Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, a refusé une commission d'enquête à ce sujet? D'ailleurs, c'est la France insoumise qui s'est mobilisée là-dessus, plus que le Rassemblement national, l'UDR ou autre, ce qui a surpris une partie de nos auditeurs, notamment, qui demandaient... où ils sont sur ce sujet?
Alors, moi, j'ai une lecture très personnelle là-dessus. Peut-être que ça n'engage pas l'UDR ou le Rassemblement national, mais la réflexion que je me suis faite, c'était on a une problématique qui est essentiellement américaine. Je ne suis pas convaincu que l'affaire Epstein concerne considérablement la société française.
Le deuxième pays, c'est pas la société, mais le deuxième pays le plus important dans tous les réseaux Epstein, c'était justement la France quand même. C'était là qu'il avait son appartement, c'est là qu'effectivement il faisait, c'était son point, sa base pour l'Europe.
Ça c'est le premier point. Deuxième point, je pense que c'est une affaire qui relève du judiciaire. On est bien au-delà de la commission d'enquête. On est sur une commission d'enquête judiciaire. Il devait y avoir une saisine de la justice. Donc, pour moi, on n'est pas sur la compétence législative. On n'est pas sur le contrôle de l'action du gouvernement, là. C'est au juge d'agir. C'est beaucoup trop avéré. Je veux dire, là c'est avéré, les faits sont avérés. Donc, savoir si les faits sont avérés ou pas, c'est pas à nous de le savoir. Non, c'est à des enquêteurs qui ont des moyens d'enquête qui sont bien au-delà des moyens d'enquête d'une commission législative. Les commissions législatives, ces moyens d'enquête, c'est d'appeler des gens, les faire venir, leur poser des questions. Bon, c'est extrêmement léger. Un procureur, un juge d'instruction peuvent faire des perquisitions, peuvent faire énormément de réquisitions s'ils le veulent. Donc, ils ont un accès à des données qui n'ont rien à voir. Et puis après, ils peuvent donner des suites judiciaires, ce que l'Assemblée nationale ne peut pas. Donc, je pense qu'on est sur un autre domaine, sur la dimension Epstein.
Oui. Ouais.
Nous, là, ce sur quoi je travaille, c'est comment on peut modifier le cadre, le corpus juridique, et donc nos règles communes, pour pouvoir ne plus avoir ces problèmes à l'avenir. C'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
Voilà la réflexion que je me suis fait.
Pour le coup, effectivement, il y a cette notion de effectivement prévenir pour le coup pour ne plus que ça arrive, mais également de condamner ce qui a déjà pu se passer, notamment ce qui a pu se passer. Et justement, je pense que dans l'affaire Epstein, évidemment, bon, alors il y a eu beaucoup de d'élucubrations aussi, faut le dire, hein, beaucoup de bruit qui a été réalisé autour de cette affaire. D'un autre côté, je pense que ce qui a choqué pas mal de personnes, c'est aussi cette idée qu'il y avait des personnes qui pouvaient vivre vraiment au-dessus des lois, et non pas dans les marges comme un Pierre-Alain Cotineau par exemple, mais des gens qui pouvaient vivre complètement au-dessus des lois et se créer des réseaux internationaux. Et là, encore une fois, je reviens sur des personnalités comme Jean-Luc Brunel ou Jack Lang ou Caroline Lang, sa fille. Le fait que ça existe à ce niveau-là, il y a de quoi choquer quand même pas mal de la population, non?
Oui, c'est extrêmement choquant. Ouais. Mais vous avez des gens qui sont de facto au-dessus des lois. En France aussi, sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets. Hein.
Mais d'ailleurs, justement, on parlait de la GPA dans l'entretien précédent avec... il y avait tellement de personnes que je ne vais pas faire la liste, mais on parlait de la GPA. En réalité, même, on voit que sur ce sujet aussi, des personnalités médiatiques un petit peu célèbres, etc., ou même politiques. On pense à Gabriel Attal qui annonce à vouloir un enfant avec Stéphane Séjourné quelques jours après avoir annoncé vouloir proposer la GPA. Dans le fond, il y a quand même une promotion d'un acte illégal aujourd'hui en France par des personnes qui justement ont les moyens d'acheter des enfants.
Ouais, c'est totalement désinhibé.
Ouais.
Effectivement, on a un présentateur télé, je crois que c'est Christophe Beaugrand, qui fait la promotion de la GPA et qui assume publiquement avoir eu recours à la GPA alors que c'est interdit dans notre pays et que c'est une fraude à la loi. Techniquement, c'est une fraude à la loi. Il assume cela sans aucun problème, il en fait la promotion et c'est intolérable. Je considère que c'est intolérable. Et vous verrez, enfin, moi je veux pas stigmatiser, mais c'est toujours des socialistes.
Ouais.
On se retrouve toujours avec ce profil socialiste où on est entre copains, on a noyauté tout le système, et puis après c'est open bar. Alors après on va faire des grandes condamnations publiques, mais sinon c'est open bar d'ici là.
Ouais.
Jack Lang, vous voyez, tout le monde lui tombe dessus, Jack Lang, tout d'un coup là. Bon, alors que présomption d'innocence, tout le monde lui tombe dessus. Mais pendant des années, personne lui est tombé dessus.
Ouais.
Et puis à un moment, ça va se déclencher, avoir une petite vague, et là tout le monde va témoigner. Typiquement, alors là, c'est bon.
Patrick Bruel aussi, d'une certaine façon.
Voilà, tout le monde va témoigner parce qu'on va se dire c'est bon, c'est devenu rentable.
Ouais.
Maintenant je rentabilise en me posant en victime, alors pendant des années. Je me rentabilisais en faisant l'inverse, en étant complice en réalité.
Ouais.
Vous voyez, tout ça, c'est à chaque fois, il y a toujours une bascule à un moment. Ouais. Vous êtes complice. Et à un moment, ça devient rentable d'être la victime et d'aller poignarder celui dont vous avez bénéficié en réalité.
Ouais.
Hop, et vous vous posez en victime.
Ouais.
C'est fatigant. Hein.
Merci Alexandre Allégret-Pileau d'avoir été avec nous ce matin. Donc on rappelle votre proposition de loi donc contre la pédocriminalité. Donc vous avez une pétition à ce sujet sur votre site, on le rappelle. Merci d'avoir été avec nous pour traiter de tous ces sujets. On vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
Merci.